Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h04, ravi de vous accueillir pour un nouveau Team du Gage jusqu'à 20h sur RMC. Nous allons parler et débattre football avec Jean-Louis Tour qui est bien là.
Bien sûr, je suis là.
Mon Jean-Louis, ça va mon poulet?
Surtout en os plus qu'en chair.
Surtout en os, oui, surtout en ce moment.
Oui.
3, toujours 3, pas plus?
3, c'est bien déjà, attends.
C'est pas mal.
3 en 5 semaines.
Oui, c'est ça le problème. 3 en 5 semaines, c'est que tu dois quand même y aller.
Attends, en même temps, c'est
va à ton rythme. Oui, oui, va à ton rythme.
Merci.
C'est bientôt les vacances sur la plage et tout. Tu vas être.
Oui, ça
va être,
t'as raison.
Ça va être impressionnant. Jérôme Rotin est avec nous également. Bonsoir, Jérôme.
Salut, Dugas. Salut à tous.
Ça va, mon poulet?
Ouais, en forme.
Bon,
pleine forme.
Mon Jean-Louis, un gros programme.
Ah oui, gros programme. Ah oui, effectivement. Ah, oui. Puisqu'il y a 19h.
Du divertissement.
Ah, on va faire un peu de divertissement dans un instant, effectivement. Ouais. Bon, on en fait tous les soirs, nous, du divertissement.
C'est pas faux.
On fait plus de divertissement que de l'analyse de foot.
Ça va nous changer de l'expertise, je te
voilà.
Pas.
On va continuer notre débrief de France-Allemagne 82, puisqu'on n'a pas fini hier. On n'a pas notamment abordé les conséquences de Séville 82 sur le foot français. En quoi ce drame a contribué aux succès qui arriveront derrière. On reviendra aussi sur le France-Allemagne 86.
Il y a une incidence.
Ah bah écoute, on verra.
Bah oui,
on en parlera.
Bah, je vais écouter, je vais être tout oui.
Et bah peut-être, tu vois, le côté équipe de France romantique qui ne gagne pas à la fin, peut-être que les mentalités vont changer et l'importance du résultat plus que la manière, etc. On en parlera tout à l'heure à 19h.
Ok, super.
Et puis, on va aussi vous donner des infos RMC Sport à 18h30, puisque la guerre est peut-être déclarée entre le PSG et le Bayern, après le dossier Kouassi.
La guerre footballistique, bien sûr, mon Jean-Louis.
Là, bien entendu, à l'échelle du foot.
Mais oui.
Et puis, on va débattre donc dans un instant sur le supposé manque de culture foot en France. Ce sera dans un instant. Mais d'abord, les infos de la journée, c'est donc l'UEFA qui a officialisé les dates de la fin de la Ligue des Champions au mois d'août. On va détailler tout ça avec Mohamed Bouafsi qui nous rejoint. Salut Mohamed.
Salut Dugas, salut Jérôme, salut,
salut
Jean-Louis.
Mohamed.
Alors déjà, on peut donner les dates.
Oui, les dates, on les avait données dans Team Duya il y a quelques jours. Ce Final 8, c'était la tendance. Je me souviens même que Jérôme en avait parlé il y a plusieurs semaines de cette idée qui était de faire un Final 8 durant le confinement. Ça a été confirmé.
Jérôme, il a les instances en direct, bien sûr.
Il parle directement à l'UEFA, oui. je le sais. Par Alexander Seferin.
Ma voix compte. Oui, ma voix compte déjà en France, imagine au niveau européen.
C'est pour ça que l'année prochaine, vous allez recruter un bon remplaçant. Vraiment, c'est un bon remplaçant qui pourra rentrer à tout moment.
Tu vois, moi, je suis gentil, je fais une passe décisive et toi, tu essayes de créer des problèmes. Je fais une belle passe décisive et toi tu crées des problèmes, tu chauffes. Et là je le vois, il a changé. Il a kiffé quand je lui ai fait la passe décisive et là il est énervé.
Oh non.
Pas possible.
Bon, moi,
et donc en gros.
Non, les chambreurs acceptent de se faire chambrer.
Ouais, exactement. C'est ça. Voilà. Mais les chambreurs ont beaucoup de susceptibilité aussi parfois.
Qui est Christophe Dugarry pour dire ça, c'est un retraité.
Oui, c'est un peu son jubilé là, tu as raison.
Ce vieux trois points qui se prend, celui-là.
Donc ce Final 8 a été confirmé avec ces fameuses dates du 12 au 23 août. Ce Final 8 qui aura lieu à Lisbonne. Match des quarts de finale, demi-finale en un match seulement, pas de confrontation aller-retour. Et il y a toujours cette réflexion du gars sur les huitièmes de finale, où vont avoir lieu les huitièmes de finale. Il y a une réflexion autour de l'équité. Est-ce que les matchs retour doivent avoir lieu dans les villes qui devaient accueillir? On pense notamment à la Juventus Turin qui devait accueillir l'Olympique Lyonnais. L'idée au départ, c'était de jouer ces matchs à Lisbonne, comme ce fameux Final 8, mais on connaît la force, l'expérience, le lobbying de certains clubs comme la Juventus qui ont des rôles assez importants, la direction de la Juve dans l'UEFA, et donc il y a une volonté claire d'accueillir ce match retour, et d'ailleurs c'est plutôt assez justifié, ça serait logique d'accueillir ces matchs dans les villes respectives, et les matchs qui vont avoir lieu le 7 et 8 pour OL Juve, et tous les matchs qui auront lieu le 12, 13, 14, 15 pour les quarts de finale, le 18 et le 19 pour les demi-finales, et le 23 août, la finale de la Champions League, un dimanche à 21h. Finale de la Ligue Europa, le 21 août à 21h.
Et le tirage, c'est quand, hein?
Alors, il y a une réflexion aussi sur le tirage, c'est de faire un tirage intégral avant que les matchs aient lieu. Et il y a aussi une deuxième volonté. Avant que les huitièmes aient lieu.
C'est important quand même.
Oui, bien sûr, c'est très important.
Imagine, je te coupe, mais imagine Lyon et Paris. Lyon se qualifie, Paris aussi, sachant qu'ils n'auront quasiment pas joué depuis 3 mois et demi, 4 mois. S'ils jouent le 15 et qu'ils se qualifient, imagine, pour ils n'ont que 3 ou 4 jours de repos. Quoi.
Pour la demi, le 19.
Et ce n'est pas la même chose que si tu joues le 12. Hein.
Oui, bien sûr.
Ah oui, d'accord, oui.
Oui, oui, sur le tirage, sur les dates du tirage, tu as raison. Mais en revanche,
ce que je voulais dire aussi, la nouveauté avec les années précédentes, c'est que quand tu disputeras ton huitième, tu connaîtras ton adversaire en quart.
Ah oui, oui.
Sur les huitièmes qui restent.
Oui, c'est ça. Nouveauté. Et ça, le tirage intégral, soit il aura lieu avant les huitièmes de finale retour, soit le 10 juillet. Donc, entre...
Non, c'est avant quoi qu'il arrive.
Oui, c'est avant quoi qu'il arrive. Le tirage, oui, c'est ça que je voulais dire. Le tirage intégral aura lieu quoi qu'il arrive avant les matchs retour. On fera pas un tirage au sort le 10 août, pardon. C'est ça que je voulais dire, le 10 août, pour savoir quelle équipe va affronter l'autre équipe en quart.
Est-ce que l'UEFA s'est exprimé sur la constitution des effectifs pour ce mois d'août? Est-ce qu'on va pouvoir rajouter des joueurs parce qu'il y a, je sais pas, des fins de contrat, des recrues?
Alors non, on ne pourra pas ajouter de joueurs recrutés durant les mois de juin, juillet, pour disputer cette Champions League en août. On reste avec les mêmes équipes. En revanche, on autorise les nouveaux joueurs à entrer dans la liste qui sont dans le club.
Oh.
En clair, oui. Ça veut dire, par exemple, je donne un exemple, Lucas Touzard quitte l'Olympique Lyonnais. Il va rejoindre le RK Berlin. Il ne pourra pas jouer avec l'Olympique Lyonnais. L'UEFA autorise l'Olympique Lyonnais à ajouter un joueur dans cette fameuse liste.
D'accord. Donc, si dans l'effectif, il y en a un qui n'a pas été ajouté
jeune,
avant...
Voilà, il y a un jeune qui ne comptait pas, eh bien, on a le droit de le faire entrer dans cette liste.
Par exemple, Choupo-Moting.
Oui.
Un jeune, pas une recrue.
Non, pas une recrue, dès le départ. En gros,
Choupo-Moting, qui n'était pas dans la liste,
oui.
S'il est prolongé de...
Il n'est pas prolongé.
Oui, mais il ne sera pas prolongé, Choupo-Moting.
Ah bon, il n'est pas prolongé. Ouais. Bon.
Bah, oui,
non,
mais là, si le mec était prolongé et pas dans la liste...
Les primes depuis, on va rappeler ça.
Oui. Bon, en tout cas, là, ça serait possible de l'ajouter. Bon, très bien. Duga, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce qu'elle t'excite, cette fin de Ligue des Champions?
Oh, bah oui. Oui, bien sûr que j'ai hâte de retrouver cette compétition. Voilà. Après, je regardais, ça fait quoi, une dizaine de matchs. Maintenant que je regarde sans public, c'est quand même malgré tout assez compliqué, embêtant. Mais écoute, faut finir cette saison. Faut décerner les titres, faut décerner les trophées. Donc voilà, c'est la moins mauvaise solution de faire ça. Donc oui, je suis quand même malgré tout content. J'ai hâte de voir le PSG surtout et puis l'Olympique Lyonnais, bien sûr.
Oui, après, le huis clos, c'est encore en suspens. Est-ce qu'il y aura du public ou pas?
Au pire, tu auras 5 000, c'est ça, non?
Oui, en fait, on aura plus que 5 000.
Plus que ça.
En tout cas, dans les stades portugais. Il va falloir aussi suivre l'évolution de la crise du coronavirus, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais on voit que ça repart au Portugal, on voit que ça repart en Chine. Donc, l'UEFA reste quand même assez prudent sur toutes les questions de supporters, puisqu'il ne faut pas quand même entraîner des annonces qui ne pourraient pas forcément avoir lieu en août. T'imagines, du gars, Jérôme, si on disait aux supporters, bah, si vous pouvez revenir en août, c'est acté, et que la crise repart au Portugal, ben non, on ne jouera pas les matchs avec des supporters. Mais l'UEFA est quand même très optimiste sur l'idée d'avoir des supporters dans le stade, et la réflexion se portera sur des supporters des deux camps.
D'ailleurs. Jérôme, tu es impatient aussi? Ou tu te dis, bon, c'est quand même pas la même chose?
Non, je suis champion. J'étais déçu au départ. C'est vrai qu'il y avait plusieurs possibilités. Déçu parce que c'est vrai que, et Mohamed a bien raison de le rappeler, rien n'est encore gagné avec la crise sanitaire, même si ça va mieux, et qu'aujourd'hui, vu que ça va mieux et que tous les autres championnats ont repris, je me dis qu'au bout d'un moment, oui, c'est bien de remettre des gens dans le stade. Donc avec des gens dans le stade, ça donne autre chose quand même comme compétition, et quand tu vois le format, c'est excitant. Je m'attendais à ce qu'ils fassent un petit peu mieux. C'est vrai que en termes de... Moi, je m'attendais plutôt à un Feyenoord fort plutôt que 8, mais bon, aujourd'hui, ils ont décidé ça, il faut y aller.
Fort, en anglais, Jérôme, c'est combien? Fort, c'est Feyenoord. 4, d'accord. Et 8?
8? Ben, ouais. Quoi, 8? Non,
c'est pour
8.
Nos auditeurs. Non, c'est pour nos auditeurs qui parlent pas anglais.
Ah oui, excuse-moi.
Oui, vous êtes aussi bon l'un que l'autre en anglais. Non, mais tu vas pas trop aller le chercher non plus.
Mais non, mais quand t'es bilingue, c'est vrai que c'est pas facile. Toi, tu te confonds.
Moi, je suis trilingue, moi.
Oui, avec espagnol, évidemment.
Non, avec les conneries que je dis.
C'est une langue apparente.
C'est un langage.
Bon, très bien. On en reste là pour les infos. Vous les avez toutes sur rmcsport.fr pour la reprise de la Ligue des Champions. Tout de suite, messieurs, on pensait qu'il y avait des stars au PSG, notamment Neymar, Mbappé. Mais la vraie star, c'est le Perfoura.
Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort-Boyard.
Vous êtes devant la première épreuve, vous avez l'air d'une équipe dynamique.
Oui, tu Franck.
Perfoura, ça va?
Allez, Franck, allez.
Bonjour et bienvenue, Méco.
Eric, Méco.
Celle dont on est le plus fier, c'est celle que l'on a remportée. Qui est elle?
La coupe.
Qui c'est le king?
Dans le temps de la clepsydre, je veux sectionner une corde avec une épée.
Allez,
elle
est là.
Allez, la clé se trouve au bout.
Allez, reviens.
Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
Voilà, petit extrait de certains anciens joueurs de foot, hein, passés par Fort Boyard. Il y a eu Edil Rami, il y a eu notre Dream Team aussi, Eric Dimeco, Franck Leboeuf, voilà.
Ouais, Eric, avant qu'il soit en chaise roulante, il l'a fait.
Ouais. Il allait faire le Perfoura, Eric.
Ouais, il paraît que Franck, il a failli se perdre.
Franck, il a fait être embauché après. Non, Fort Boyard.
Ah ouais. Ils auraient pu garder Eric, par contre, ça aurait été bien ça.
Et toi, tu l'as jamais fait, du gars?
On m'a proposé, mais non, ça m'intéresse.
Dans tes enfants, ils ont jamais insisté en disant allez, non, mais, fais-le, etc.
Non, trop de travail.
Trop de travail.
Non, mais sincèrement, c'est pas un jeu qui me plaît tant que ça. Et puis, il paraît que t'enregistres pendant 4-5 heures, il fait hyper froid dans l'humidité, dans le truc là-bas et tout.
Non, maintenant, tu dors là-bas, du gars.
En plus, ouais.
Ah, qu'en oui, bon, plus, voilà. D'accord, ouais, ok, très bien.
Bon, c'est mort. Okay.
Ouais, voilà, t'as la réponse.
Oublié du gars. Jérôme, tu serais chaud?
Non, mais moi aussi, on m'a proposé. Alors, au départ, c'était pas facile le calendrier. Après, aujourd'hui, il y avait quelque chose qui pouvait se monter avec l'after.
Ouais.
Donc on en parle.
Vous allez le faire ?
On verra. Ouais, je sais. Écoute, il faut déjà que tout le monde soit OK. Et
vous êtes pas. Ils refont les anonymes, non? C'est connu quand même.
Non, mais moi. Non,
mais mec de l'after qui va regarder les mecs de l'after. C'est
en fait, le truc, c'est que si moi je le fais. Si moi je le fais, ça marche.
Vous voyez,
si
ça va, mais la ganache de Gilbert et tout ça, de Daniel et tout. Non, mais ça rend compte.
Moi je regarderai.
Polo Breitner, il va faire comment, Polo Breitner, pour passer les portes? Et Fred Hermel,
eux, on est tranquille, ils sont en prison toute l'émission.
Ils peuvent pas en sortir, par contre, de la prison. Hein.
Fred est capable de bouffer les rats. Lui, hein.
Alors là, j'imagine certaines personnes qui nous écoutent et qui se disent mais pourquoi ils parlent de Fort Boyard là depuis 5 minutes, qui comprennent pas. Eh bien, en fait, je voulais vous faire réagir à cette info de confrère parisien. France, hein. Voilà, c'est au-dessus du foot, parce que les deux finales de coupe PSG Saint-Etienne et PSG Lyon devraient être programmées les 24 et 31 juillet prochains, à chaque fois des vendredis, pour ne pas perturber la programmation et la diffusion de Fort Boyard, programme historique du samedi soir l'été en France et gros pourvoyeur d'audience pour France 2. Alors, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça montre notre manque de culture sport si un programme de divertissement passe avant une finale nationale? 32-16 pour en débattre. Duga, t'es choqué?
Je m'en fiche. Déjà, un, j'en ai rien à foutre. Deux, j'en ai rien à foutre. Sincèrement, si ça arrange tout le monde, enfin que ça peut.
Quoi qu'il arrive, ça n'arrange pas les supporters.
Ouais, les supporters, c'est-à-dire pourquoi?
Si tu veux faire un stade plus ou moins rempli, avec 5, 20 000 et tout, c'est plus facile de se déplacer un samedi soir qu'un vendredi soir où tu travailles.
Ouais, ok.
Donc ça, c'est quand même embêtant déjà. Les finales nationales, c'est plutôt le samedi soir d'habitude.
Oui. Non, mais je pense sincèrement. Alors après, on est tous d'accord pour dire que la France n'est pas un pays de football et que c'est pas la priorité absolue. Ça, on est tous d'accord. Après, se servir de ça pour dire que c'est une preuve supplémentaire que le football passe au deuxième plan. Sincèrement, ça arrange tout le monde. On sort d'une crise. C'est aussi important pour les télés. J'en sais rien. Après, vu l'image qui a été renvoyée par notre football ces derniers mois et pendant la crise sanitaire, faut pas s'étonner que le football n'est plus devenu une priorité, que les gens ne courent pas après le football. Voilà, au bout d'un moment, il se passe tellement de choses qu'on condamne depuis des années et depuis au moins 4 ans dans le Team du Gaz sur l'image du football, sur l'image des joueurs, sur ce que le football peut renvoyer, sur tout ça, qu'à un moment ou un autre, s'il y a des gens qui se décrochent un petit peu du football, sincèrement, faut pas trop leur en vouloir et c'est comme ça et c'est normal. Au bout d'un moment, je peux le comprendre. Au bout d'un moment, qu'on soit de moins en moins une terre de football, je peux le comprendre.
Jérôme, tu es d'accord?
Non, le constat, oui, sur le constat, du gars a raison. Après, il faut combattre ça et nous, on est là aussi pour ça.
Ah ben, le président Quillot, il avait fait un plan là, je sais plus comment ça s'appelait, le plan qu'il avait fait là.
Non, mais il faut. Moi, je me refuse d'accepter ça. Alors, en effet, oui, ça peut paraître choquant pour les passionnés de football de voir que Fort Boyard passe avant une finale de coupe.
Ça fait combien d'audience pour Fort Boyard?
Vous savez, 4-5 millions, non?
Ouais, oui. C'est inférieur à la finale de Coupe de France, au moins.
Tu crois? Ouais.
Oui, sur une finale de Coupe de France, quand même. En plus, qui plus est, un PSG Saint-Etienne, je pense que les gens vont regarder, quoi.
Le 31 août, Fort Boyard, le 31 août 2019, par exemple, a fait 1 962 000.
Ah oui, non, mais là,
la finale de Coupe de France PSG Rennes a fait 4 millions et demi.
Oui, non, mais c'est sûr. Il n'y a pas photo. Et encore, c'est PSG Rennes.
Voilà. Contre les PSG Les Herbiers, par exemple, la précédente finale, c'était 6,4 millions.
Mais oui, non, en logique. Moi, je me souviens.
Et le PSG Lyon de Jérôme a fait 15 millions à l'époque.
Mais oui, non, mais le PSG Marseille de l'époque avait fait plus de 10 millions.
Oui,
je crois.
Le PSG Marseille, oui.
Mais bon, peu importe. C'est même pas. Bien sûr que l'audience d'un match de foot fait plus. Mais moi, ce qui me dérange, c'est plus sur la Coupe de France. La Coupe de la Ligue, encore, ça ne me dérange pas parce que la Coupe de la Ligue, elle va disparaître. Et de toute façon, il y a plus d'un club qui n'avait pas envie de la jouer. Donc, c'est une finale. Les gens, à mon avis, ils ne s'identifient pas trop à cette Coupe de la Ligue. Mais la Coupe de France reste quelque chose de particulier ici en France. Et il faut combattre ça. le fait que alors aujourd'hui c'est France Télé qui a les droits, donc ils font ce qu'ils veulent, ça montre qu'à France Télé en effet il y a des priorités, le football n'est pas une priorité, de toute façon ça se voit par rapport aux droits qu'ils ont, ils n'ont pas grand chose sur le foot. Le problème c'est que vu qu'ils ont quand même la finale historique, la finale de la Coupe de France, ils auraient pu faire un effort pour au moins montrer que cette finale
mais s'ils l'avaient fait, ça aurait changé quoi dans l'absolu, c'est ça que je veux te dire Jérôme, sur quel message, il y a pas de message
prouvé que, ça aurait prouvé que par rapport aux audiences, par rapport à plein de choses, que le foot est quand même important et, qu'il y a une place importante. Alors je veux bien que on n'est pas l'Italie, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas l'Angleterre, on n'est pas l'Espagne en termes de culture foot. Mais quand même.
Disons que ces deux matchs, ça représente aussi symboliquement quelque chose. C'est le retour du foot en France après une période sans match.
Oui, mais donc le vendredi ou le samedi, ça change quoi? Mais ça change quoi le vendredi ou le samedi? Moi, tu me parles des supporters, je veux bien l'entendre. Ça fait des mois et des mois que les supporters, ils ont plus le droit d'aller de se déplacer. On s'est jamais posé la question. Lorsqu'on a fait un débat, Jean-Louis, est-ce qu'il faut repenser la façon de supporter, la façon de soutenir ces équipes?
Voilà. Mais du gars, ça devrait être la priorité de France Télé, la finale de la Coupe de France.
Mais Jérôme, ça l'a jamais été. Ça l'a jamais été. Pour les supporters, mais ça fait bien longtemps que les supporters ils passent au second plan, au troisième plan. C'est les droits télé qui comptent, on le sait. Voilà. Au bout d'un moment, il faut pas faire les étonnés. C'est évident que ça allait se passer comme ça.
Alors, sauf que c'est la première fois que ça se passe comme ça.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger sur lesquels on peut s'appuyer, Mohamed?
Oui, on peut s'appuyer sur le premier match qui a eu lieu en Italie il y a quelques jours. C'était un match entre la demi-finale de coupe entre la Juve et le Milan AC. Énorme carton d'audience, 9 millions de spectateurs pour la RAI.
C'était un match. C'était en clair.
Oui, c'était en clair. Ça a été diffusé en clair. On a fait une grosse pub sur ce match et on a vu que tous les supporters étaient heureux de revoir du foot rapidement en clair à la télé et de revoir le premier match de deux des plus grands clubs italiens.
Et pourtant, il y avait Interville à la place qui était prévue et ils l'ont décalé.
Non, mais c'est aussi. C'est pour ça qu'on peut le dire, c'est un symbole sur le fait que le football a moins de place que d'autres divertissements.
Les clubs donnent leur accord, Mohamed ?
Non, ils n'ont rien à dire. C'est le diffuseur qui le demande et qui impose sa date parce que Fort Boyard est diffusé, parce que Fort Boyard est toujours diffusé le samedi la plupart du temps, que exceptionnellement parfois il change.
Mais puis ça a été décalé aussi, ça devait avoir lieu au mois de mai, donc ça a été décalé, ils se sont adaptés, ils ont trouvé un vendredi au lieu d'un samedi.
Il y a une petite faille de la Fédé quand même, ou de la Ligue.
C'est sûr,
un manque de force de ces deux institutions.
Tu m'as devancé, j'allais le dire en fait, mais c'est ce qu'on a ressenti déjà. Quand le gouvernement.
Mais avec quel argument, Jean-Louis ? Avec quel argument de dire on peut faire le samedi plutôt que le vendredi ? Quel argument ?
Parce que toutes les finales ont été jouées un samedi.
Mais Fort Boyard et tous les samedis aussi.
C'est pour ça qu'on dit ça. C'est que c'est plus pour eux, c'est plus logique de décaler la finale à la Coupe de France que de décaler Fort Boyard. Et moi, je me bats contre ça. Et Noël Le Graët et la Ligue auraient dû se battre encore plus pour trouver un accord avec France Télévisions pour vraiment le foot et sa place, une place très importante. Noël Le Graët s'est quand même battu pour avoir ces deux finales là depuis le déconfinement et l'arrêt des championnats. Il n'y a qu'un truc où il s'est battu, c'est les matchs pour l'équipe de France et les deux finales de coupe. Donc au bout d'un moment, il représente bien correctement le football français, sachant qu'il y a eu beaucoup de failles depuis le déconfinement et la décision du gouvernement. Et là, c'était une façon aussi peut-être un petit peu de te rattraper. Et là, ils ont laissé faire encore une fois.
Mais il a ses habitudes, il veut sa petite énigme du Perfora le samedi soir, il la veut pas.
Mais non, il regarde pas.
Ce que je veux te dire, c'est que France 2, il cajole plutôt les fans de l'émission qui est culte plutôt que un match de temps en temps, que les supporters de foot ils ont pas de droit, donc ils ont un match de temps en temps.
Oui, mais ils pourraient valoriser justement le droit qu'ils ont avec ces coupes nationales.
J'ai une info après le bar à Bordeaux que Dugas a acheté avec Zizou, je crois qu'ils ont racheté le fort. Donc c'est pour ça qu'il se bat pour le...
Ah oui, pour le maintien.
Avant, TF1 avait changé ses dates. TF1, dans les précédentes années, à l'époque de TF1 qui diffusait du football en clair, TF1 faisait exprès de mettre ses produits de divertissement le vendredi soir pour laisser la place au foot le samedi soir.
C'est vrai.
C'était un événement. Voilà. Et ça aurait dû
être
un événement.
Alors Romain nous rejoint au 32-16. Salut Romain, bienvenue dans
le Gaga. À 16h le vendredi, c'était bien aussi.
Salut Romain.
Salut tout le monde, comment vous allez?
Ça va et toi, t'es scandalisé ou pas?
Pardon?
T'es scandalisé ou pas?
Franchement, moi, ça me débecte depuis très longtemps de ne plus avoir des matchs de football le samedi soir sur une chaîne non payante. Aujourd'hui, en fait, on est obligé de payer pour avoir du football. Et Dugas, désolé, Mais moi, la Coupe de France, eh ben, ouais, ça m'intéresse parce que je veux voir du football. La Coupe de Ligue, c'est pareil. Et pourquoi ce serait les vendredis, même si on veut aller au stade, comment on fait? On veut aller au stade, eh oui. On a des gamins, on bosse, il faut prendre les journées, il faut prendre des... Non, c'est pas possible.
Ça sera où le match? Ce sera où le match?
Stade de France.
Donc moi, je fais comment? Moi, j'habite à Clermont. Je vais emmener mon petit cousin voir un beau match, une belle finale. Eh ben non, le vendredi, il faut que je prenne une demi-journée de boulot.
Tu fais quoi dans la vie?
Moi, je travaille, j'ai une entreprise de bâtiment.
D'accord.
Donc voilà, j'ai 5 gars, je fais comment? Je peux pas. Mmh. Et voilà, le samedi, ça permet, faut monter à Paris, si ça finit tard. Et si, moi, j'ai pas de club en particulier, à part Clermont Foot, mais parce que je suis Clermontois.
Ah oui.
J'ai pas de club en particulier, mais si ça fait la fête avec des supporters, ça va finir tard. Donc on est obligé de dormir là-haut.
Ah bien sûr, ouais, non, mais c'est le week-end. Voilà. C'est vrai que la Fédé,
là où je vous rejoins les gars, c'est vrai que la Fédé aurait dû protéger. Non mais c'est vrai, aurait dû protéger.
J'ai dit qu'à la fin, il serait d'accord avec
protéger ses supporters. La Fédé, ça représente le foot amateur. Le foot amateur,
exactement.
C'est voilà. Donc au moins faciliter pour que. Ouais,
Romain, merci d'avoir reconnecté Dugas avec la réalité.
Bravo, ouais.
Merci beaucoup.
Merci Romain.
Merci pour vous. Allez.
À bientôt salut, Romain. Merci. Tu reviens quand tu veux. Alors, je signale sur Twitter à Patrick sur le hashtag RMC Live. Dugas n'a pas été engagé par France Télé. C'est pas pour ça déjà qu'il arrête RMC ou qu'il défend Fort Boyard. Voilà, je le précise.
J'adore France Télé. Alors, je vais vous dire sincèrement, ma reconversion, je vais faire la boule dans Fort Boyard. Donc voilà. Bah. Donc c'est pour ça.
Moi, je te verrai plus en Perfour, mais bon.
En Perfour.
Ouais. Franchement.
En Félindra.
Alors, avec les batailles dans la boue, il y a encore là.
Moi, c'est le perfouré, c'est pas le perfouré.
Oui, très bien. Merci beaucoup. Dans un instant, Mohamed, la guerre est déclarée entre le Bayern et le PSG.
On peut le dire
comme ça?
On peut le dire.
Voilà. Tu nous détailles ça dans une seconde.
Encore en guerre avec l'Allemagne? Oh putain, c'est pas possible.
Oui, c'est vrai, on fait France-Allemagne à chaque fois, des années 80. Allez, à tout de suite.
Oh là là,
RMC, 18h20.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez, 18h30, Team Dugas continue avec Jérôme Rotten, avec Mohamed Bouafsi, avec Jean-Louis Tour. Mon Jean-Louis, ça y est, la guerre est déclarée entre le Bayern et le Paris Saint-Germain.
Les infos RMC Sport à venir. Mais juste avant le programme du journal moyen, Adrien Aigouin nous rejoint.
Salut les amis. Salut, j'ai peut-être l'excuse la plus gonflée d'un joueur qui était en retard à l'entraînement. T'as connu du gars, ça a dû t'arriver peut-être un petit problème à la maison, un problème de voiture, t'es en retard à l'entraînement.
J'aime pas trop être en retard en général, c'est pas la chose que je préfère, mais ça a dû m'arriver, oui bien sûr.
J'ai le champion du monde de l'excuse quand on arrive en retard à l'entraînement à 18h45.
Jérôme, ça m'étonnerait qu'il arrive en retard.
Non,
il
arrivait vite à l'entraînement, trop vite même, à l'avance.
Je pense pas qu'il arrive souvent en retard.
Non, j'arrivais à l'heure.
Pile,
ouais, j'aimais pas arriver.
Il y avait des joueurs en retard à votre époque, ça arrivait ?
Il y en a toujours eu, mais il y avait des amendes, donc voilà. Mieux pas y arriver.
T'as dû arriver en retard parfois. Vu l'heure à laquelle t'arrives pour les émissions, franchement,
non, mais
on prend pas beaucoup de marge. On est là à l'heure, mais sans marge.
Quand t'es limite, quand t'arrives à l'heure pile, oui. C'est sûr que des fois,
il y a quelques débords.
Surtout en région parisienne, t'es pas à l'abri d'avoir une mauvaise surprise, donc ça peut arriver 3-4 minutes. Mais t'en fais pas, je négocie.
Très bien.
J'avais la porte de secours.
À tout à l'heure, Adrien. Très bien. Alors, les infos RMC Sport. Donc vraiment, la guerre est déclarée entre le PSG et le Bayern, Mohamed ?
En fait, c'est une guerre qui couvait, on va dire, entre les deux clubs, puisque la saison dernière, il y a deux ans, pardon, le Bayern n'avait pas apprécié les approches du PSG sur Bernat et sur Boateng, des approches qui avaient été effectuées par Antero Henrique, le précédent directeur sportif du club. Le départ de Bernat à 5 millions d'euros, il était très mal passé du côté du Bayern, surtout quand on sait qu'après, il a effectué des très belles prestations avec le PSG. On n'a pas du tout.
C'est une belle affaire, lui. À 5 millions d'euros, ce garçon-là, ça, c'est beaucoup.
Et on n'a pas apprécié aussi les attaques et les approches sur Jérôme Boateng, parce que Jérôme Boateng avait été voir le Bayern en leur disant qu'il voulait partir, mais finalement il n'avait pas reçu d'appel d'Antero Henrique. Thomas Tuchel lui avait dit je te veux, et finalement le PSG n'avait pas fait d'offre, donc il y a eu un micmac autour de cette situation et on n'a pas apprécié ce micmac du côté du Bayern. Et donc, il y a eu cette opportunité.
Mais il y a un autre truc aussi dans le passé. Il y a eu aussi souvent des jugements.
Les attaques de Romain Nigueux, du Lyonnais sur la situation du PSG. Et ça, je peux vous dire que Qatar, ça n'a pas du tout été apprécié. Surtout que quelques mois après ces attaques, l'un des plus gros sponsors du Bayern Munich se nomme l'aéroport de Doha au Qatar, comme par hasard, sur la Manche. Donc ça n'a pas du tout été apprécié. En revanche, il y a eu une opportunité ces dernières semaines. Eh bien, cette opportunité, c'était Tanguy Kouassi. Il a choisi de rejoindre le Bayern Munich en signant libre dans le club allemand. Jusqu'à il y a encore quelques jours, le PSG pensait qu'il allait rester à Paris. Le PSG ne savait pas l'identité du nom de son futur club. Et donc ça, ils n'ont pas du tout apprécié. La direction sportive n'a pas du tout apprécié. Leonardo aussi. Parce qu'il y a des... Allez, il y a des gentleman agreements sur les joueurs jeunes qui partent libres, au moins de prévenir qu'on démarre des discussions, et ça, on n'a pas du tout accepté à Paris. Et là, on se fixe pas de limites. On réfléchit du côté du PSG à attaquer plusieurs joueurs du Bayern, à sonder plusieurs profils. Et d'ailleurs, les discussions ont démarré clairement sur le profil de Lucas Hernandez. Le PSG ne veut pas lâcher 80 millions d'euros. Le Bayern demande 80. Les discussions ont démarré. Mais Paris a envie d'être un peu taquin et coquin et d'attaquer d'autres joueurs du Bayern s'il le faut.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en représailles? Aller draguer des joueurs sans passer par le club?
Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Il y a quelques années, ça avait fait très peur au Barça. Le Barça avait eu très très peur de Nasser Al Khelaifi après une déclaration où Nasser Al Khelaifi avait dit s'il m'attaque sur Marquinhos ou Verratti, j'irai sur d'autres joueurs. Quelques jours après, le Barça a rompu les négociations avec les joueurs du PSG. Là, on est dans la même situation. Il y a des joueurs qui peuvent intéresser le PSG dans l'effectif du Bayern Munich, et le PSG a quand même quelques atouts, notamment financiers, qui peuvent intéresser certains joueurs du Bayern. Et la vie aussi, parce que vivre à Munich ou vivre à Paris, c'est pas du tout la même chose.
Duga, tu penses que dans une bataille comme ça, sans parler de guerre vraiment, le PSG peut faire peur au Bayern ?
Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est possible, mais ça va se régler. Ça a toujours existé. Il y a des conflits toujours... pour des joueurs désirés ou pas. Voilà, ça fait partie de la vie de la vie du football. Après... il y a toujours intérêt quand même à ce que ça se passe bien. Là, tu vas te retrouver à surpayer dans des conflits comme ça. Tu vas te retrouver à surpayer des joueurs qui le mériteraient peut-être pas. Tu vas avoir des joueurs qui vont être déstabilisés. Tu rentres dans une espèce de jeu qui est pas très sain, qui est pas très agréable. Après, moi, ce qui me choque le plus dans tout ce qui s'est passé entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, c'est plus les déclarations du Bayern. Quand le Paris Saint-Germain est arrivé, ça a été même le cas aussi face à City. Voilà, ces nouveaux riches qui sont arrivés dans le football avec ces propriétaires qui sont des États. Ça a posé, il y a eu des déclarations très très dures de la part du Bayern et de ses dirigeants. Ça m'a beaucoup plus choqué que le fait que tu puisses t'intéresser à un joueur, qu'il fallait pas, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne période. Bon, ça toujours existé, c'est la vie du football. C'est la faute, à mon avis, ce genre de choses, plus à la FIFA ou à l'UEFA, qui doivent encadrer ce genre de choses-là. Ils ont essayé de le faire, mais bon, ils ferment souvent les yeux et se bouchent les oreilles pour pas entendre ce qui se passe à chaque fois en coulisses. On le sait, on le voit, la FIFA et l'UEFA, s'ils avaient voulu s'emparer, par exemple, des problèmes d'agents aussi, ils ont essayé de le faire. Ils ont vite compris que c'était pas possible, ils ont laissé tomber, ils ont tout dérégulé. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est les instances qui doivent gérer ce genre de choses-là et empêcher que des coups bas puissent arriver. À partir du moment où ça n'intéresse pas l'UEFA et la FIFA, écoute, chacun fait ce qu'il veut, c'est la jungle. C'est malheureusement le football d'aujourd'hui.
Jérôme, t'as poussé un coup de gueule hier soir dans l'after sur le dossier Kouassi.
Ouais.
Du coup, tu comprendrais que le PSG réponde ?
Oui, bon après c'est bonne guerre, hein, comme on dit, ça fait partie de l'histoire des grands clubs. Le PSG veut pas se faire. Alors bon, ils se sont fait avoir. Moi, pour moi, c'est pas par rapport au Bayern, mais c'est plus par rapport à la réaction de Kouassi, de son entourage.
Oui, pour toi, il voulait surtout quitter le PSG.
Oui. Et après. Oui, puis la décision, même si on l'a appris là, mais la décision. Par rapport à ce que j'ai aussi entendu, elle date pas d'il y a 15 jours, quoi. Donc, la
justification sur le fait que ce soit un manque de stabilité au PSG,
non, elle est ridicule. Cette justification.
De toute façon, j'en ai parlé hier. Je vais pas m'énerver une deuxième fois parce que j'ai assez transpiré. Mais elle est ridicule. Après, peu importe.
Mais quelle est la vraie raison alors? Il voulait juste pas signer au PSG.
La vraie raison, c'est toujours pareil. C'est pour moi, c'est comment un jeune joueur qui est formé dans un club à qui on lui a donné beaucoup de choses, qui a eu une année remarquable l'année dernière, sans contrat professionnel, jouer autant de matchs dans l'effectif du Paris Saint-Germain, ce que représente le PSG aujourd'hui en France, ce que représente le PSG aujourd'hui en Europe, c'est quand même un grand club. Et ça se respecte. Et quand le gamin, il est capable de dire non pour X raisons, peu importe, mais de partir dans un club comme le Bayern, où là, on peut pas parler de temps de jeu, on peut pas parler... ces deux grands clubs en Europe. Alors oui, le Bayern est une institution depuis des années, le PSG est plus récent, c'est plus récent qui sont installés comme ça à la tête de certaines équipes, du moins à la tête de l'Europe, mais c'est un club qui se respecte, et je comprends pas encore comment un jeune joueur comme ça, il peut pas aimer ce club, être redevable de ce club par rapport à ce qu'il lui a amené, c'est tout. Et le retour, bah il y en a pas en fait. Et c'est Kwasi, c'est d'autres joueurs aussi, hein. Il y en a d'autres qui vont partir. Je ça me dérange, mais c'est le Paris Saint-Germain, c'est Marseille aussi qui a subi ça dernièrement. C'est arrêté. Là, moi, je peux pas entendre que les nouveaux agents, c'est pas la même mentalité. Le football a changé chez les jeunes. Non, moi, jamais j'accepterai ce football-là parce que c'est pas le football que j'aime. Moi, j'ai envie que les joueurs reviennent à des bases plus saines. Alors oui, il y a plus d'argent, ok, mais l'argent, il en gagnera peut-être. Et je lui souhaite beaucoup plus prochainement quand il aura fait un peu plus de preuves, mais avant tout, garder le rêve. Quand vous étiez gamin, les gars, on rêvait d'être footballeur professionnel à n'importe quel niveau. Et ça, il faut pas l'oublier. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération et les gens qui les entourent, parce qu'ils sont pas seuls, ils ont oublié un petit peu ça.
Et d'ailleurs, l'autre exemple aujourd'hui, tu as cité Marseille, il y a Lyon aussi, hein, qui est
Lyon, c'est pareil.
Avec Pierre Kaloulou, ouais, qui va s'engager avec Milan.
Après, c'est un dossier un peu plus compliqué, Kaloulou, parce qu'il y a ses frères qui étaient au club, qui n'ont pas réussi, ils gardent des mauvais souvenirs du club. Et encore, ça, c'est un autre dossier. Mais clairement, sur Kwasi, ça a bien fait rire le PSG. Les arguments de stabilité, quand on sait que le Bayern a eu plus d'entraîneurs sur les 10 dernières années que le PSG, ça, c'est bien, bien drôle. Quand on sait qu'il y a 6 joueurs à 7 joueurs qui sont devant lui, dont des internationaux champions du monde, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, ça aussi, ça fait vraiment rire, et il aurait dû assumer, et en tout cas c'est ce qu'on dit au PSG, Kwasi aurait dû assumer juste un truc, qu'il ne voulait pas signer au PSG, oui, qu'il est parti pour d'autres raisons, et c'est la vie.
Mais oui, il peut avoir ses raisons de ne pas vouloir signer au PSG.
J'espère,
toi t'es pas d'accord avec ça Jérôme, mais il peut les avoir, et au moins
non, mais il a des raisons, mais j'espère juste qu'à travers ces cas-là, parce que ça se répète quand même en France, qu'au d'un moment on mette un règlement en place, des lois en place. Nous, on l'a connu avec Dugas, hein, parce que Dugas ne saura peut-être pas, parce que c'est plus âgé que moi, il est plus âgé que moi. Mais c'est quand tu faisais 15 matchs l'année, ta dernière année de stagiaire, oui, ou aspirant, ou là, c'est espoir maintenant, tu étais obligé de signer.
Oui, pour vous, la question ne se posait même pas.
Mais tu te poses pas. Et puis, ton rêve, le rêve d'un joueur, c'est quand il est formé encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain, mais toutes les autres clubs, c'est pareil. Le rêve, c'est de jouer en équipe première, d'être professionnel, d'avoir des étoiles.
Kwasi, il est arrivé à quel âge au Paris Saint-Germain? C'est impressionnant, en plus, le gamin.
Il est arrivé tout jeune, il est arrivé à 13 ans. Il est, c'est vrai.
Normalement, la logique, son rêve absolu, c'est de jouer au Paris Saint-Germain.
Oui,
c'est
comme toi, au Bordeaux, quoi.
Ils ont perdu ça. C'est ça qui est ahurissant et qui est inquiétant. Tu veux jouer pour ton club de cœur qui t'a fait vibrer. Enfin, c'est non, il y a plus du tout ça. C'est vraiment devenu que du business.
Et c'est pour ça que moi, pour finir là-dessus sur ce dossier, Jean-Louis et Luga, c'est et Momo, il faut que les clubs travaillent différemment. Il faut dans les clubs remettre des gens qui ont ces valeurs-là et qui peuvent amener ça à des jeunes. Parce que c'est à l'âge de 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans que tu arrives à leur mettre dans la
vie. Cette passion, bien sûr.
Et c'est trop délaissé. Et encore au PSG, j'ai plein d'exemples.
Ils l'ont fait avec Louis à un moment, et Louis n'a pas réussi non plus à convaincre les jeunes.
Mais Louis, il était tout seul. Il faut peut-être encadrer, mettre plusieurs.
Mais Louis, c'est un problème. C'est pas un problème lié au PSG. Il y a eu Coman, il y a eu Zagadou, il y a eu des joueurs comme Ferland Mendy. Tous ces joueurs ont fait leur formation. Kwasi, il est né au PSG. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, il faut aider les clubs français. Le contrat que vous avez connu, messieurs, quand vous étiez plus jeune, il n'existe plus.
Non,
en fait, aujourd'hui, Dugas, on passe de stagiaire à stagiaire pro et on doit soumettre des contrats. Et les gamins, les Manchester United a piqué un joueur il n'y a pas si longtemps que ça au PSG. Le joueur est parti du PSG, il a signé à Sarcelles pendant 6 mois alors que son contrat était fait à Manchester United, et il est parti à Manchester United. Et ça, c'est inadmissible. Ouais. Et le PSG est aussi victime de cela. Il faut aider les clubs et il faut arrêter que ces contrats pro de 3 ans où des gamins sont reconnus par les grands clubs à 16-17 ans, on leur propose des primes à signature dingue et ils vont dans les autres clubs.
Dugas.
Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces jeunes joueurs qui ont fait toute leur préformation dans leur club n'ont plus envie ou n'ont pas envie, et pourquoi ça ne leur fait plus rêver, soit à Bordeaux, soit à Marseille, soit à Paris, soit partout. Comment ça se fait qu'ils n'ont plus cette lumière dans les yeux de pouvoir défendre les couleurs de leur club, de les porter haut avec les supporters, avec ce qu'ils ont vécu, avec leur famille dans les tribunes, avec leurs amis dans les tribunes? C'est normalement, putain, comment ça a pu disparaître?
Il y a l'argent et il y a le confort. Et moi, je suis désolé, et encore, je te dis, je prends des exemples précis parce que j'ai j'ai plein d'amis qui ont des jeunes qui veulent rentrer en préformation au Paris Saint-Germain et qui jouent au Paris Saint-Germain. Mais les jeunes, ils sont dans le confort. On leur donne déjà beaucoup trop à 11, 12, 13, 14 ans. Arrêtez.
Alors évidemment, notre antenne est ouverte à ces jeunes, aux conseillers de ces jeunes, aux membres de la famille de ces jeunes pour qu'ils viennent nous expliquer les raisons. On est prêt aussi à les entendre si elles sont valables et si elles tiennent la route. Mais évidemment, on leur donne la parole.
T'as un chèque pour les faire venir?
Oui, mais bon. Faut pas les payer quand même. C'est pas des champions du monde 98.
Non. Bah écoute, je pense qu'ils ont une bonne exemple en fait.
Bon, merci Mohamed.
Merci
pour
messieurs.
Ces infos.
Merci Mohamed. Merci
Julien.
Merci
dans une Jean. Seconde avec donc le journal moyen et cette excuse de retard à l'entraînement. À tout de suite.
RMC 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, 18h48 les amis, Tim Dugas continue avec Jérôme Rotten, avec Jean-Louis Tour à partir de 19h. Nous allons revenir sur notre France-Allemagne.
Oui, exactement. On va faire France-Allemagne 86, la deuxième demi-finale de Coupe du Monde perdue par la France. Et on va conclure France-Allemagne 82 quand même, parce que Polo nous a appelé hier à 20h en disant « J'ai encore plein de choses à dire, vous m'avez censuré, etc. » Non, je plaisante. En tout cas, il a plein de choses à dire, Polo. Il sera avec nous tout à l'heure à 19h. Tout de suite, journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Dugas, aujourd'hui sur RMC, le Bayern fait la fête, c'est normal. Quelle est la meilleure excuse quand on arrive en retard à l'entraînement? Là, c'est j'ai un champion du monde dans le journal moyen. Et puis, un magnifique question pour aujourd'hui. Jean-Louis, tu vas te régaler, 4 questions.
D'accord.
Année 90, okay. Je sais pas, peut-être un peu trop jeune, Jean-Louis. On va vérifier tes connaissances. Vous écoutez RMC, c'est le 339e journal moyen de l'histoire de Tim Dugas.
En direct de la rédaction d'RMC Sport,
c'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
Alors, vous, les professionnels, Jérôme et Dugas, vous allez pouvoir peut-être me répondre. Le Bayern Munich est champion d'Allemagne. 30e titre de champion pour ce club mythique du foot européen. Le club publie une vidéo sur Instagram de la joie des joueurs dans le vestiaire qui célèbre ce titre. Et ben c'est partout en Europe. Alors on est en Allemagne. Moi je me dis, ils vont chanter « On est champion » en allemand.
Oui,
pourquoi ils chantent ça tout le temps ? Campeone ! Pourquoi ? C'est le cas dans tous les clubs du monde, en Angleterre, en France, même ça arrive. Pourquoi Campeone? Ça se donne un petit côté latin, je sais pas, c'est curieux.
J'en ai aucune idée.
Ouais. C'est à la mode en ce moment.
Je sais pas comment tu dis champion en allemand.
Campion. J'ai regardé, j'ai vérifié.
Campion.
Je sais pas.
C'est plus musical, non?
Si vous avez la réponse, vous êtes fan de foot,
c'est
vous savez.
Plus militaire, quoi, tu vois, c'est dur, c'est à l'image des Allemands.
Campeone. Allez, sans transition, direction.
C'est une belle langue,
Ouais.
Jean-Louis, nous sommes au Chili.
Ah oui, bien sûr.
Magnifique histoire donc au Chili. Vous avez tous des coéquipiers qui ont inventé des excuses après un retard à l'entraînement, avant un match. Je tiens peut-être la meilleure excuse de l'histoire de l'humanité. Il s'appelle Guillermo Marino. Il jouait en 2011-2012 à l'Universidad de Chile.
Dingue,
j'ai pris des cours. C'est son ancien coéquipier Gustavo Lorenzetti, un Argentin, qui raconte ça sur sa chaîne YouTube. Marino arrive en retard à l'entraînement et il dit au coach, à ses coéquipiers, il raconte. Donc, il a commencé à expliquer qu'il s'était soudainement perdu et qu'il avait été...
Non.
Non mais sérieux, non, c'est très sérieux. Enlevé par des extraterrestres. Il a dit qu'on lui avait pris son âme, qu'elle avait été analysée et qu'il s'était occupé de lui pendant tout le voyage. Il a raconté quelque chose comme ça. Se souvient son coéquipier Lorenzetti qui poursuit. Il dit honnêtement, moi-même, je crois aux extraterrestres. Il a donné une excellente explication et nous devions le croire. Donc c'est sur son excuse. Il arrivait à l'entraînement en retard. Il dit j'ai été enlevé par des extraterrestres. Il dit j'y ai cru par la façon dont il nous l'a raconté. Si vous le connaissez, vous savez que c'est une personne sérieuse. Il n'est pas du genre à être en retard quelque part. Il est très respectueux. Nous l'avons cru.
Bah de toute façon, dans ces cas-là, il faut être convaincant. Peu importe.
Non mais est-ce que, je sais pas, déjà, il faut croire aux extraterrestres.
Après, les plus gros mensonges, c'est ceux qui passent le mieux, donc, envoyer la sauce.
C'est dingue comme histoire, ça fait parler là-bas, c'est curieux.
Ça me fait le même effet quand Jérôme parle de sa carrière, moi. Il le fait avec tellement de conviction.
Tu finis par y croire.
Ouais, mais sauf que là, je peux pas inventer parce qu'il y a des traces.
Oui.
Non, bien sûr.
Là, et extraterrestre.
Oui, c'est compliqué.
Et voilà, son entraîneur. Alors, l'histoire ne dit pas. Il a pas raconté la réaction de Sampaoli, entraîneur de.
Le match après. Pendant combien de temps il a pas rejoué le mec, par contre.
Voilà, il a pas raconté. Il y a peut-être une amende spéciale extraterrestre.
Vous avez pas une histoire de retard à raconter, non?
Ben Jérôme, t'avais une technique toi quand t'étais en retard, non?
Ah oui, non, mais bon, on a tous eu. C'était 3-4 minutes, donc tu rentres. Moi, au camp des loges, j'avais le j'avais la porte du chez le docteur. Donc s'il me cherchait, je disais mais non, mais je suis allé voir le docteur.
Parce un soir.
Que j'ai un petit problème là, j'ai mal à.
Mais ça va aller, je vais m'entraîner.
Ouais. Pas contaminer les. Voilà.
Et on n'allait pas demander au docteur. Hein non. Personne n'allait vérifier avec
le docteur. Ça finissait avec un maillot de temps en temps.
Quelques places.
Avec une victoire. Moi, il savait très bien qu'il fallait que je sois bien pour qu'on gagne parce qu'on prenait les primes de match. Donc voilà, je le récompensais en fin de semaine.
Sans transition. Question pour Jean-Louis, à toi. Alors là, que se passait-il il y a 26 ans? Il y a pile 26 ans, moment important pour le
26,
foot.
26, Coupe du Monde 94.
Le 17 juin 1994, ouverture de la Coupe du Monde de foot aux États-Unis. La première et la seule aux States. Question pour spéciale Coupe du Monde 94. Dugas, tu aurais pu la jouer si tu avais été en équipe de France tout minot. Tu aurais pu, non? Ça aurait pu.
C'est Gérard Rouillet.
La France était qualifiée déjà.
Question pour exceptionnelle, c'est la Coupe du Monde. Un week-end à gagner à Bordeaux chez Christophe Dugarry pour celui qui gagne. Pour Christophe, sera un magnifique cadeau. Hein, tu seras au chez toi. Qui marque le premier but sur cette Coupe du Monde?
Mila?
Non.
Bon Mario.
Souvenez-vous, à l'époque,
Bebeto.
C'est le champion.
Non, c'est le champion du monde, c'est l'Allemagne
qui ouvrait. Ouais. 1-0 face à la Bolivie. C'est pas le match qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Hein.
C'est l'Allemagne.
Klinsmann.
Rossi. Jürgen Klinsmann. Tu te rapproches du week-end chez Christophe Dugarry, Jérôme. Attention.
Moi,
alors attention là.
On va se régaler.
T'avais quel âge, Jean-Louis?
Moi, j'avais 7 ans.
Donc tu regardes un peu la télé?
Ouais, pas trop, j'avais pas la télé.
Sur la télévision française, quel duo de commentateurs commente la finale Brésil-Italie?
Roustan Cantona.
Eh ben Roustan-Cantona, Didier Roustan-Cantona, un duo assez inédit, un duo qui était très bon, un peu dans l'originalité, ils étaient assez libres. Si vous vous souvenez pas, on écoute, c'était Italie-Espagne, le quart de finale, 2-1 pour l'Italie, le but de la victoire de Roberto Baggio.
Baggio, le jeu bizarre, il n'a qu'à hésiter, Baggio, oh, il en pousse trop son ballon, mais il y est, but de Roberto Baggio.
Écoutez le gardien.
Zubizarreta lui aussi a hésité à sortir, Zubizarreta a tardé à sortir, il aurait dû le sentir, il a arrêté là.
Oui, il disait les choses tantôt, il n'avait pas peur.
Un but magnifique.
Roustan Canto, France 2 avait la plupart des matchs à l'époque, il y avait quelques matchs sur TF1. Ils étaient assez libres, ils déconnaient, c'était pas mal. Moi j'ai un bon souvenir de ce duo. Alors attention, question plus compliquée. Une fois la finale gagnée sur la pelouse, le Brésilien Dunga soulève la coupe, mais après il déploie une banderole. Qu'est-ce qui était écrit sur cette banderole? Jean-Louis, non, Jean-Louis pas, Google, c'est en rapport avec une
Roten remplace Dugas.
Non. Et je vais vous la lire.
Où est Dugarry ?
Ça va vous rappeler un souvenir. Ça a ému tout le peuple brésilien et tous les amoureux de sport au monde. Sénat.
Merci Gérard Rouillet.
Sénat. Nous accélérons ensemble. Le quatrième est à nous. Hommage à Sénat qui est mort le 1er mai. Le pilote de Formule 1 qui visait un quatrième titre de champion du monde de Formule 1. Et puis enfin, facile pour terminer, c'est de la rapidité. Qui est élu meilleur joueur de la compétition?
Romario.
Romario, bien joué. Jean-Louis Tour, tu as gagné ton week-end chez Christophe Dugarry à Bordeaux.
Parfait. Voilà. Bravo,
tu accueilles Jean-Louis Dugas? C'est bon chez toi?
Avec plaisir.
Est-ce que tu as une petite chambre?
Il va falloir que j'en plus de frigo par contre.
Non, je suis au régime.
Tu peux faire des écarts dans un régime. Tu peux faire un écart.
Moi, je suis un militaire.
Mais pourquoi ça se voit pas, toi, quand t'es au régime? Ça fait 3 semaines que tu
es. Non, ça se voit. Ça se voit sur le torse.
Ah, merci.
Là, t'as perdu le torse.
Ça se voit, c'est évident.
Il a toujours des seins.
C'est sûr. Ah, c'est des pecs.
Non,
c'est des pectoraux. Ça se voit pas bien.
Peut-être qu'un jour, ça sera des pecs.
Mais là, pour l'instant,
c'est des pectignos. Des pectignos.
Merci, Adrien. À demain pour le journal moyen. Merci, Jérôme.
Merci, Jérôme. Salut, Adrien. Salut,
dans un instant, on reprend les mêmes qu'hier. Daniel Riolo, coach Courbis, Paulo Breitner. On conclut sur France-Allemagne 82. Et on fait.
Mais il a pas fait exprès. Il vous l'a dit, non?
Non, mais c'est. Moi, c'est surtout Baptiston qui a fait faute. C'est ça que j'ai
retenu. Oui, non, mais il a pas fait exprès, le pauvre. Attends,
imagine Baptiston, ce qu'il fait.
Bah ouais, tout le monde est
assassin.
Tout le monde est assassin, Schumacher.
Bah oui, le pauvre. Il a un bleu à la fin, tu sais.
Ouais.
Il va m'abuser. Ouais. Allez, merci Jérôme. Dans un instant, donc, les France-Allemagne des années 80, tout de suite.
RMC. 18h-20h. Tim Dugas. RMC. 18h-20h. Tim Dugas. Jean-Louis Tour. Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h03, Team Dugas continue, reprend pour sa deuxième heure avec Jean-Louis Tour, toujours là mon Jean-Louis.
Bien sûr.
Nous accueillons du beau monde comme hier,
oui parce qu'on n'a pas fini hier.
Les mêmes titulaires qu'hier.
Voilà.
On n'a pas fait rentrer de remplaçants parce que c'était tellement exceptionnel hier qu'on a décidé de garder les mêmes. Donc Daniel Riolo, Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Roland Courbis, Paul Breitner et Julien Cazard. C'est ça?
Bonsoir à tout le monde.
Voilà,
salut
les copains.
Bonsoir.
Pour un petit set.
Salut.
Bienvenue les gars.
Si vous êtes tous de retour ce soir, c'est la faute de Polo. Polo a dit non mais c'est pas
grâce
possible.
Grâce à Polo, c'est une chance.
Oui, c'est une chance quand même. Une fois grâce à Polo.
Eh oui, parce qu'on n'a pas tout dit hier sur France-Allemagne 82.
Bah déjà, on a, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ? Parce qu'on a appris qu'il n'y avait pas faute hier. France
82, on ne peut pas tout dire puisque c'est l'histoire de notre football.
Oui, surtout, on apprend des choses, t'as raison.
Ouais, j'ai, j'ai appris qu'il n'y avait pas faute et maintenant, j'ai envie d'apprendre autre chose maintenant. Que c'était une fausse moustache qu'il avait, Schmarrin.
C'est possible.
Moi, j'ai été surpris. Non,
mais dans le contexte de l'époque, la moustache n'est pas
pareille. Ouais, mais vous voyez ça avec le contexte d'aujourd'hui, on met plus de moumoute. Mais à l'époque.
Oui, Polo.
Oui, moi j'ai été très surpris de voir que Patrick Battiston était encore titulaire en 1986, parce que j'avais cru qu'il était décédé en 82, à vous écouter. Donc je comprends pas tout.
Alors il était titulaire en 86,
mais bien, il est invité, il est là ce soir. Et vous...
Il y a juste les dents qui avaient changé. Alors on va faire France-Allemagne 86 également tout à l'heure, mais on n'a pas tout dit donc sur le France-RFA de 82 à Séville.
Bonne balle de Platini pour Battiston.
À côté.
Aïe, 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 c'est pas vrai.
Et encore une fois, Schumacher.
Il a pas fait le voyage.
Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Oui, il est fou, oui, ce Schumacher. Oui, que voulez-vous, monsieur Corvère? On s'avoue.
Oui, oui, Marius Trésor.
Oui, Marius.
Reprise de volée.
En retrait pour Giresse.
Oui, en retrait pour Giresse. Oui, bien joué. Giresse qui marque le troisième but sur ce centre en retrait.
Et que nous sommes au coup de pied au but. Voilà.
Et c'est fait.
C'est l'épreuve que tout le monde redoutait.
Oui. Oui. Bravo, Ettori.
Ce n'est pas fini.
Aïe.
Quel chat noir, c'est.
Aïe. Roubaix. Ettori. But. Et voilà. C'est fait.
Terrible pour les 13 Français qui ont participé à ce match.
C'est la très très dure sanction de ce match de Séville que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Eh ben oui, parce qu'on en parle toujours aujourd'hui, les commentaires de l'époque de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Voilà, les coups de pied de but n'ont pas été favorables à la France. Bon, le match, on en a parlé hier, on vient de le résumer là à l'instant, donc on va plutôt s'intéresser aux conséquences de ce match. Et quand j'ai annoncé ça tout à l'heure à 18h, Dugas, tu voyais pas du tout le lien, en fait.
Non, mais je vais écouter.
Alors, Daniel, est-ce qu'on peut dire que ce France-Allemagne 82 a eu des conséquences sur la suite? Alors, pas forcément en 86, mais sur la suite du développement du foot français, avec peut-être parfois un jeu moins romantique et plus pragmatique.
La suite de la Coupe du Monde aussi. Parce que je pense que les Italiens, et dans un Italie-Allemagne, ben je suis pour les Italiens par rapport à mes deux grands-mères, mais je crois que les Italiens sont contents de ce match.
Coach, ça n'a vraiment absolument rien à voir avec ma question, on est d'accord.
on va refaire un débat demain, je pense.
Il nous manquait des choses de cette Coupe du Monde.
Je note ça, coach,
clôturons cette Coupe du Monde avec une finale où il n'y a même pas eu photo pour moi.
Bon, alors on reviendra sur la finale après, coach, pas de souci. Daniel.
Non, mais là où Roland a raison, c'est que c'est vrai que pour la finale, de façon assez, je dis pas surprenante, mais en tout cas, il y avait une unanimité à ce que toute la France, c'est vrai, a supporté l'Italie au moment de cette finale, comme une sorte de vengeance.
Oui. On les aimait bien, les Italiens.
Grâce à celui qu'on appelait encore à l'époque le cousin transalpin.
Ah, le titre de France Foot, c'est Justice est faite, Polo, c'est ça?
Je parle sous le contrôle de Daniel, c'est pas Justice est faite, le titre
Moi,
de France
Foot? Moi, j'ai souvenir d'un autre, mais c'était pas dans l'équipe, c'était Vengé par nos cousins transalpins.
Ouais.
Ah ouais. Ça, ouais, je me souviens de ce truc.
Ils avaient oublié que, bon, ils avaient été plus potes à une époque avec nous, quand même. Hein,
oui.
Bon. Excusez-moi, ils avaient la mémoire courte, les mecs.
En l'occurrence, footballistiquement.
Oui, footballistiquement, on va dire footballistiquement, alors.
Alors, pour les conséquences, en fait, ça faisait déjà. Alors, ça n'avait pas forcément impacté la sélection d'Hidalgo, qui était quand même au niveau du jeu. Je ne veux pas refaire le côté les Brésiliens de l'Europe, surnom qui viendra plus tard. Mais de toute façon, la France a toujours cherché à copier ce qui se faisait à l'étranger. Donc on était déjà dans une période où il y avait beaucoup d'interrogations sur comment jouent les Allemands et on voulait leur piquer leur côté un peu discipliné, rigoureux, enfin les vieilles images qu'on avait sur eux. Mais ça datait déjà de l'épopée de Saint-Etienne qui avait perdu contre le Bayern. Donc on était déjà un petit peu dans cette phase de réflexion d'être un petit peu plus costaud sur le terrain. Non, les conséquences, c'est les retrouvailles. On n'aurait jamais imaginé que 4 ans après, l'occasion était donnée d'une vengeance en direct, après celle des cousins de 82. Cette demi-finale en demi, et ce que j'avais trouvé, moi, complètement stupéfiant, et là, Polo, ça va forcément l'amuser et le faire ricaner, c'est que non seulement tu savais ce que les Allemands étaient capables de faire. T'avais morflé avec Saint-Etienne, t'avais morflé en 82, et cette demi-finale, dans l'euphorie de ce qui s'est passé en quart contre le Brésil, les Français pourtant fatigués.
Oui, mais alors, attends, Daniel, pardon. On va y revenir en détail là-dessus. Il y a aucun souci. Mais juste quand même, avant, moi, j'ai quand même dans la tête le souvenir des mecs de 98. Donc, ça tombe bien que Dugas soit étonné par tout ce que je dis. Mais moi, je me souviens quand même que la génération 98 a grandi avec le traumatisme de Séville 82, où, en gros, à un moment donné, il faut savoir aussi fermer la boutique, arrêter d'attaquer à tout va. Et ce pragmatisme a été développé.
Mais ça, c'est pas
98,
développé.
Jean-Louis, déjà,
c'est débloqué par le fait qu'il joue tous en Italie.
C'est développé par l'Italie. Quand les grands modèles du foot français, il y a celui de l'Allemagne dont je t'ai parlé. C'est celui de l'Allemagne dont je t'ai parlé. Et ensuite, il y a eu le modèle italien. Le modèle italien, c'est Tapie copie un peu modèle italien. Ouais. C'est le réalisme. C'est effectivement France 98 est nourrie du football italien. Et c'est ça que tu retrouves d'ailleurs le quart de finale de 98. C'est un peu on bat notre maître, quoi. Les Allemands, à ce moment-là, sont un petit peu oubliés à ce moment-là quand même.
Ils sont nuls.
Alors, en 98, on est déjà agréablement surpris d'être qualifié. Alors, donc, puisque c'était quand même
en 98,
le problème.
Je suis au Stade de France.
Oui, Polo.
Je suis au Stade de France pour ce match France-Italie qui est fou en fait.
Oui.
Parce que évidemment il n'y a pas une équipe qui est supérieure à l'autre, ça se joue à rien du tout. Lorsque les Italiens attaquent, il y avait un contre notamment. Il n'y a plus un bruit dans le stade tellement.
Oui, l'occasion de Baggio.
Je peux t'assurer que nous en tribune on flippait, mais c'était comme pas possible. Quoi, je vais rester poli.
Bon là on a dévié.
Non, on a dévié, mais si vous me dites,
je croyais que tu allais me parler de la Bulgarie qui avait éliminé l'Allemagne, donc je comprends pas.
Non. C'est-à-dire.
Non, je vois pas plus loin. Moi, dans les conséquences, pour l'instant, il y a un match dont on parlera peut-être tout à l'heure, que moi j'appelle un petit peu le petit frère de France 82. Si on oublie donc visiblement la demi-finale de 86, parce que tu vas en parler plus tard.
Ouais.
Le petit frère de 82, je pense que tout le monde a en mémoire ce match qui est Auxerre-Dortmund de 93.
Ah bah oui.
Cette demi-finale est complètement folle parce que finalement, même si beaucoup de joueurs français commencent un peu à partir à l'étranger, on est encore dans un football assez national avec les mecs qui jouent dans les pays. Auxerre en France à ce moment-là représente d'abord et aimé de toute
la
France.
Le terroir un peu.
Parce que c'est le terroir, parce que c'est le bon sens populaire. Giroud est une idole pour tous ceux qui aiment le foot en France parce que il a justement ce côté le football paysan. Ce qu'on aime en France, c'est-à-dire le petit qui réussit, c'est ancré dans notre mémoire collective, dans notre mémoire footballistique. Et on retrouve des Allemands en demi-finale, et ça se termine de la même façon, après un match épique, parce que le match retour, il est fantastique à la Baie des Champs, et ça se termine au péno. Il y a le gardien de Dortmund, comment il s'appelle, Polo, qui a une tête pareille, un peu de pas mec gentil.
C'est pas Klos?
C'est Klos, oui.
Klos.
C'est ça. Il y a Maé qui rate le péno, et il a une tête
de petite
victime. Je crois quand même qu'il a une attitude qui ressemble un peu à celle de Bossis.
Ça, c'est pas le retourné de l'Asland.
Non, c'est après 97.
Cette demi-finale au Auxerre Dortmund, elle est quelque part un peu le petit frère. C'est encore une fois les Allemands qui te plantent dans une demi-finale de club, et il est vraiment ce match-là, je sais pas si vous Dugas, Roland, vous vous en souvenez, mais émotionnellement, il est très très fort.
Et c'est encore les Italiens qui nous vengent derrière.
Oui, mais alors là, c'est pas du tout la même chose. Non. Mais le Auxerre Dortmund, il était
bon,
fort.
Bon d'accord, donc pas plus de conséquences
parlé,
que ça.
Okay. Beaucoup de gens avaient parlé d'ailleurs et avaient fait un revival France 82. Encore les Allemands en demi, et la France représentée par le petit AJA qu'on aimait tous, quoi.
Et Dugas, quand t'as commencé toi à jouer, est-ce qu'on te parlait parfois de ce France-Allemagne 82 ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Non, d'accord.
Non, j'avais 10 ans moi. Voilà. Après, quand je l'ai vu, on parlait beaucoup des clubs, quoi.
Ouais.
C'est l'équipe de France. Enfin, moi, j'ai souvenir qu'elle gagnait pas grand-chose, même si il y avait des joueurs de légende pour nous. C'était des références. Moi, j'avais la chance d'avoir Alain Giresse comme modèle. À chaque fois, j'allais voir les matchs à Bordeaux, qui était là. Tigana également. Enfin voilà, Batiston, Marius Trésor. Moi, j'avais la chance de les côtoyer. Donc, j'étais plus proche de mon club que de l'équipe de France. Donc,
quand t'as perdu ta finale contre les Allemands du Bayern, il n'y avait pas cette atmosphère-là un peu? Le côté inéluctable.
Ils ont tellement été au-dessus, sincèrement, sur l'aller-retour. Ils sont beaucoup plus forts que nous. On sent bien qu'on est là.
Mais le côté allemand, il n'y a pas le côté ils vont gagner, c'est les Allemands, il n'y avait pas ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à l'époque.
Moi, j'ai toujours, tout au long de ma carrière, je n'ai plus ressenti sur les Italiens. Les Italiens, j'avais jamais l'impression qu'ils étaient incroyables, que c'était des phénomènes. Et
sauf que tu les as battus.
Oui, on les a battus, mais on a mis du temps avant de les battre. Je trouve que c'est
peut-être aussi parce que toi,
toujours plus compliqué.
Toi, t'as été marqué par le Juve Bordeaux. Tu parlais que des clubs qui te marquaient plus que la sélection. C'est peut-être pour ça aussi.
Oui. Et puis, je me souviens d'un match à domicile contre l'AS Roma aussi, très compliqué, où l'AS Roma est en plein bourg. Voilà, le Milan, on se fait, sur ce fameux match de 96, à l'aller, on se fait éclater 2-0. On les trouve pas extraordinaires, mais bon, un coup de pied arrêté de Baggio, plus un autre but, je me souviens plus de qui. Ben voilà, c'est une évidence que les Italiens, beaucoup plus que les Allemands, je n'ai pas souvenir que les Allemands pour ça.
Et quelles conséquences ce France RFA 82 pour le foot allemand, Polo ?
C'est terrible en fait. C'est terrible parce que pour la première fois, le foot allemand se rend compte que la victoire, il y a une expression d'ailleurs, c'est chaque victoire n'est pas un gain. C'est-à-dire que le football allemand et les techniciens ont tellement été impressionnés par le jeu français qu'on s'est dit que du côté des Allemands, qu'ils étaient complètement retardés, complètement retardataires par rapport à l'évolution du football. C'est évidemment le retour de l'arrogance.
Attends, pardon, juste quand tu dis chaque victoire n'est pas un gain, ça veut dire c'est pas parce qu'on gagne le match qu'on a raison et qu'on est dans le vrai.
C'est ça. Et en fait, ça fait suite à certaines déclarations, par exemple comme Lothar Matthäus qui, vous savez que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le match France-Allemagne, ça c'est côté français, mais France-Allemagne, en Allemagne, ça fait partie d'un contexte qui est la Coupe du Monde 82, où il y a la défaite contre l'Algérie, où il y a le fameux match contre l'Autriche, ce qu'on appelle le match de la honte en Allemagne, on appelle ça le pacte de non-agression. Et tout ça fait que, tout ça fait que, il y a des déclarations de joueurs qui ne sont plus du tout intéressés par le maillot national. C'est l'histoire de Matthäus qui, lorsqu'ils sont passés en 8e, dit, de toute façon, tout ce qui compte, c'est de passer. Il y a Dremler qui déclare que de toute façon, suite encore une fois au match France-Autriche, qui déclare que moi, le prestige de la sélection nationale, j'en ai rien à faire, je suis un professionnel. Et donc, on se rend compte qu'ils sont en train de se casser complètement avec les fans allemands en plus. Donc, l'histoire de l'arrogance, elle a fait du mal, évidemment, par rapport au monde qui a regardé cette Allemagne-là, la RFA, qui est évidemment ce que les Anglais ont appelé la Dirty Germany, c'est-à-dire la sale Allemagne, etc. Référence à la période 33-45, évidemment. Et puis, ça a fait beaucoup de mal en Allemagne, mais parce que les gens les joueurs pensaient qu'ils allaient revenir en héros parce qu'ils ont été en finale quand même. Et puis finalement, il y a eu un vrai rejet de cette sélection.
En fait, on retient plus le mauvais match que l'exploit de revenir en prolongation de 3-1 à 3-3.
Alors sur l'instant, évidemment la finale, quand ils sont en finale, quand tu vois tous les médias de l'instant qui disent oh, on est en finale, ça se finit en 8-7 avec les Allemands ont une façon de calculer les buts plus les pénalties. Donc ça fait 3-3 et 5-4 si je me rappelle bien, donc ça fait 8-7. Et donc c'est comme ça, il dit Endspiel, on est en finale, etc. Et puis 24 heures, 48 heures après, il y a énormément de critiques sur ce qui s'est passé et c'est l'après Coupe du Monde qui va être terrible parce que ce qu'on oublie c'est que Joop Derwall, le sélectionneur, sera viré en 84 suite à l'Euro 84 où les Allemands sont pas en demi-finale et en fait ils payent les excès de 82 et non pas sportivement ce qui s'est passé en 84.
D'accord. C'est quand même fort quand même de se dire on va réfléchir à notre qualité de jeu quand on gagne. Ils auraient pas gagné, c'était en finale. Ils sont en finale, ils réfléchissent, c'est quand même.
Excuse-moi, j'ai pas eu
cette énorme qualité. C'est la finale, Christophe, qui leur fait mal. La finale, ils n'existent pas. Contre les Italiens.
Oui, mais tout remettre en cause sur un match.
Alors, moi, je mets qu'ils y remettent en cause.
Comme si nous, on avait fait ça après l'Euro 2016 parce qu'on a perdu en finale et qu'on n'était pas bon.
Mais Polo, ils ont remis tout en question. Mais
impensable chez nous.
8 ans plus tard, quand ils gagnent la Coupe du Monde avec Matthäus, j'ai pas l'impression que c'était flamboyant.
J'ai pas dit qu'au niveau de la fédération, ils étaient en train de se remettre en cause. Je dis qu'au niveau du public et des journalistes et des personnes qui suivent, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vois la sélection allemande de 82, mais tu peux voir celle de 86 aussi, ce qu'ils auraient pu produire comme jeu par rapport aux individualités qu'ils avaient et ce qu'ils ont produit. Il y a un grand débat en Allemagne après 82, si dans les journalistes, c'est comment est-ce qu'on peut être aussi merveilleux à l'Euro 72 et 10 ans après être aussi merdique, excusez-moi l'expression, lorsqu'on voit ce qu'on produit comme football. Rappelez-vous, il n'y a que 3 joueurs à vocation offensive, Magat, Litzbarski et Klaus Fischer contre la France, alors que la France, elle a quasiment que des joueurs offensifs partout. Et donc, ça pose énormément de questions. Et en fait, c'est une sélection qui, à force de gagner, se nécrose complètement. Parce que regardez ce qui s'est passé dans les années 70 et les années 80, les Allemands sont soit en demi, soit en finale, soit ils gagnent. Et c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire quand on a une bonne sélection, on gagne, quand on en a une mauvaise, on est en finale. Donc t'as pas envie de bosser, si tu veux. En fait, le football allemand ne travaillait plus.
Bon, très bien. Et
on est en train de faire pareil, nous. On a été mauvais en 2016, on est en finale.
Ouais, c'est vrai qu'en 1974, l'Allemagne gagne, mais on pense tous à ce qui s'est passé du côté des Pays-Bas.
Bon, bah voilà, plus rien à rajouter sur 82
Non.
Non, très bien. Polo ?
Moi, je pourrais tout ce que vous voulez. J'adore, mais ce match, moi, France-Allemagne 82, c'est du sport, évidemment, c'est une compète, mais il y a un tel contexte que c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire.
La finale, Polo?
À la finale, elle est, bon, déjà, les Allemands sont super fatigués, faut pas l'oublier. Et puis les Italiens sont montés en puissance. N'oublions pas, Roland, que l'équipe italienne de 82, c'est celle qui aurait, à mon avis, dû gagner l'Euro 80, mais il manquait Paolo Rossi à l'époque, vous savez, il a eu un petit souci, puisqu'il avait été, exclu de la sélection italienne.
Et bon, c'était les Allemands qui. L'affaire de Totonero.
Ouais, exactement. Déjà, et en fait, c'est la même équipe.
Déjà en 82, il y a quand même un exploit d'un sélectionneur, parce que ce que fait Paolo Rossi, plutôt ce que ne fait pas dans les matchs de qualification, et le maintenir, il faut lui tirer un grand coup de chapeau, parce qu'après c'est un autre Paolo Rossi qu'il y a dans les matchs décisifs.
Bah, si je me rappelle bien, l'Italie.
Il fait des doublés, je crois, après.
Oui, mais c'est après.
Il fait un massacre à partir des huitièmes.
Enfin, c'est pas vraiment des huitièmes, parce que c'est une petite poule à trois.
Ouais, c'est des petites.
Ou en fait, il ne marque qu'à partir du Brésil, hein, parce que contre l'Argentine, il marque pas.
T'as le Italie-Brésil, c'est
triplé contre incroyable. Le Brésil, deux contre la Pologne et un contre l'Allemagne. C'est ça, c'est six buts.
Ben ouais.
Et puis, il y a quand même un but de Paul Breitner, c'est important, en finale. Paul Breitner qui marque en finale, quand même. Ça, c'est moi, c'est ça qui m'intéresse.
Quand même.
Évidemment.
Ah oui.
Ce que je vous propose, on revient dans une seconde et on bascule sur 86, donc 4 ans après les retrouvailles entre la France et l'Allemagne. Le match sera beaucoup moins épique, hein, mais on va y revenir quand même dans une seconde dans Team Dugas tout de suite.
RMC, 18h-20h, Team Dugas, Jean-Louis Tour, Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h25, Team Dugas continue avec Jean-Louis Tour, avec Roland Courbis, avec Paulo Breitner, avec Daniel Riolo, avec Julien Cazard, que du beau monde pour revenir sur le match France-Allemagne de 86.
Exactement, et puis on fera un blind test également dans un quart d'heure, donc 32-16 pour vous inscrire.
Je suis désolé, je te l'ai déjà dit hier, Jean-Louis, j'aime bien qu'on dise France RFA.
Oui, bah,
pour moi ça raconte quelque chose de bien dire France RFA.
Eh bien allons-y pour France RFA 86, donc à Guadalajara. Au Mexique, dans le même stade qui avait vu ce quart de finale magnifique, donc auquel Daniel faisait référence, on l'a tous en tête, le France-Brésil, qualification au tir au but, peut-être le plus beau match de l'équipe de France dans une Coupe du Monde, non, Daniel, je t'entends dire ça parfois.
Le France-Brésil, ouais.
Enfin, de cette génération, en tout cas.
Ah, monsieur, ça,
c'est
je vois
sûr.
Pas.
Cette génération, c'est sûr.
Match en Coupe du Monde.
Ouais.
Ouais, parce que le France-Brésil 2006 est bien, mais ça vaut malgré tout pas celui de 86.
On est bien.
Bah après, on n'a pas un regard romantique aussi.
La finale de 98, par les émotions qu'elle procure, évidemment, ça fait quand même 3-0 au final. C'est lourd, c'est fort, c'est extraordinaire. Footballistiquement parlant, le France-Brésil 86 est supérieur.
On n'est pas loin d'être dans les cornes quand même.
Et même en émotion, parce que le France-Brésil de 86, en émotion avec ce qui se passe dans le match, oui, plus la séance de péno à la fin, même en émotion.
Le péno raté, surtout. Même, hein. Le péno raté de Zico. Ouais. Zico.
Zico, oui, est platiné pendant la
saison. Honnêtement, pour moi, c'est le plus grand match en Coupe du Monde. Ouais.
C'est donc grand match que les Bleus disputent cette demi-finale donc face à la RFA.
Je voulais dire France-Afrique du Sud, mais je suis pas sûr d'être suivi. Quoi.
Afrique du Sud, c'est bien pour l'ouverture.
Pour moi, c'est le plus grand match.
Quel sale type.
Non, là, c'était juste pour te réveiller. Il avait peur que tu
dormes un peu. Non, mais je vous écoute, ça me plaît, ça m'intéresse.
C'est le but, que ça te plaise.
Les auditeurs aussi, c'est le but.
Bien sûr. Donc, France RFA 86, est-ce qu'il y avait vraiment ce climat de revanche 4 ans après?
Évidemment.
Ah ouais, oui.
Évidemment, sauf qu'on l'a super mal abordé. Tout le monde y pense. Ouais. Mais le pire, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a cru 4 ans après, et malgré une expérience du foot et de la qualité des Allemands et de leur potentiel qu'ils ont toujours eu et toujours eu énorme, c'est de croire que ça allait être facile. Ça, oui, moi, je reviens toujours pas de l'approche de ce match, de se dire.
On a en fait plus, le plus
avec
dur
la fatigue
avec le
Brésil, avec la fatigue du Brésil, avec ce que ce match avait pompé comme énergie, de se dire les Allemands sont moins forts, les Allemands ont pas l'air brillantissimes.
Et nous on est plus forts aussi, peut-être, parce que là t'arrives avec des références, t'es champion d'Europe, Brésil, t'as sorti l'Italie, t'es champion d'Europe.
L'Allemagne a été nulle en 84, je crois. Ils ne suivent pas
à l'Euro, ils étaient cata à l'Euro. Non, mais comment on a pu 86, aborder ce match aussi leur mal leur d'un leur point de vue psychologique? Ça,
leur c'est parcours avec
c'est énorme.
Si je me rappelle bien, il n'y a jamais eu de suspense. Hein.
Juste non, oui, sur le match, effectivement. Oui, et Polo, tu nous disais le parcours de l'Allemagne à cette Coupe du Monde n'est pas bon non plus.
Est catastrophique. Dans leur groupe, ils se font battre par le Danemark, ils finissent deuxième. Ensuite, en huitième, ils tombent le Maroc, c'est Matthäus qui marque à la 89e. En quart, ils passent qu'on vous pénalise. pénalty contre le Mexique et ils arrivent en demi-finale en n'ayant pas joué un seul match correct. Et par contre, comme je te disais, Jean-Louis, je l'ai revu
oui,
à midi ce match. Et ce qui est très intéressant, c'est non pas la violence des joueurs français, mais en fait, il y a un nombre incalculable de tacles. Comme s'il fallait apprendre de 82 et entre guillemets répondre aux Allemands, comme si l'expérience passait que par la violence entre guillemets pour le.
C'est pas parce qu'ils étaient crevés. Quand t'es crevé, tu.
Non, mais ça se voyait.
Quand t'es crevé, tu finis là-dedans, en général.
Oui, alors c'est ça. Les Français sont fatigués. Platini est blessé aussi, comme d'hab. Comme à chaque Coupe du Monde.
Il joue toute la Coupe du Monde sur une jambe, ça c'est vrai. Louis, c'est un petit peu celui qui a pas vécu 82 sur le terrain et qui en plus c'était un tempérament fougueux. Il en fait des tonnes et je crois qu'il prend vite un carton qui aurait pu le priver de la finale.
89e ouais, le carton, je crois.
On veut mettre un peu le pied. Quoi.
Vite
on veut,
que ça.
On veut y aller quoi.
Alors, je vous redonne la compo des Bleus. Donc, avec pas mal de changements quand même par rapport à 82. Donc, Joël Bat, c'est dans les buts. Donc,
c'est un nouveau.
Exit
donc,
Jean-Luc Ettori.
Ça y est, on Bat, a un gardien excellent.
Qu'est-ce que j'aimais bien ce gardien. Joël Bat, c'est un sacré gardien.
Magnifique. Ah
bah excellent face au Brésil en plus. Hein. Il va chercher un pénalty monstrueux.
Ah ouais. Moins contre l'Allemagne.
Voilà, moi, j'allais venir. Moins contre l'Allemagne, effectivement.
Amoros. Il prend un lob, je crois, un peu miteux.
Ah non, il prend surtout un coup franc.
Un coup franc où il se déchire.
Ah ouais,
il fait brioche.
Exactement. Donc, Bat dans les buts. Amoros, Batiston, Bossis et Ayash en défense.
Donc là, il y en a 3 sur 4 qui ont vécu Séville.
Exactement.
Pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout.
Le carré magique où Luis Fernandez remplace Gengini, donc aux côtés donc de Platini, Gires et Tigana.
Donc là, 3 sur 4 encore.
Exactement. Et en attaque, donc là, 0 sur 2, Bellone et Stopira. Voilà. Sachez que Vercruis et Xuereb vont rentrer. Et côté allemand, il y a un petit renouvellement quand même,
ouais,
Polo.
Il y a un petit renouvellement. Bon, évidemment, c'est mais en fait, je voudrais juste rappeler 3 anecdotes qui me sont importantes, qui sont la suite de 82 et ce que se posait comme question Julien tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est une sale Allemagne aussi dans les couloirs. C'est-à-dire que Uli Stein, le gardien, a été renvoyé en Allemagne parce qu'il a traité d'idiot, qu'il a traité de clown, pardon, le sélectionneur Beckenbauer. Il y a le sélectionneur qui a traité son attaquant Dieter Hönes, le frère d'Uli Hönes, d'idiot complètement. Et sauf que Dieter Hönes, il a répondu en disant: je sais très bien comment tu es monté physiquement parlant et tu sais très bien que j'en ai des plus grosses que toi, donc c'est ça se passe comme ça.
Ça c'est l'Allemagne qu'on aime, ça.
Voilà.
Ça,
les Allemands, ils se balancent des trucs à la gueule, c'est bien,
c'est
ça.
Génial, j'adore.
Mais j'adore, moi. Et
Karl-Heinz von Rummenigge,
vous savez qu'il est souvent blessé aussi, Rummenigge, et il attaque ce qu'il appelle le clan de Cologne, c'est-à-dire les joueurs comme Schumacher, comme Klaus Allofs, comme Litbarski, etc., en disant que c'est à cause d'eux, parce qu'il lui envoie des mauvaises ondes, etc., et qu'il est blessé. C'est un peu spécial. Alors,
une belle bande de connards, quand même, hein.
Non, mais moi, j'adore. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, évidemment, dans les buts, c'est Schumacher.
Ouais.
Il y a une défense à 5, en fait. Alors, il y a Karl-Heinz Foster qui est encore là. Il y a le défenseur central du Bayern, Eder, donc, qui est théoriquement associé à tout à l'heure, mais qui était sur le banc. Il y a beaucoup de joueurs d'Hambourg, avec Jacobs notamment. Il y a Bremeux à droite et Brigel à gauche. Le milieu de terrain, c'est un joueur que j'adore, qui est Wolfgang Rolf, l'ancien joueur d'Hambourg. Il y a Matthäus qui joue à l'époque plutôt en numéro 8. Et puis il y a 3 attaquants qui sont Magath, Klaus Allofs et Karl-Heinz Rummenigge.
Oh, les jolis noms. On peut pas mettre du Wagner pendant que tu parles.
Et puis, comment s'appelle, il y a Rudi Völler qui rentre à l'heure de jeu à la place.
Exactement.
Le deuxième but.
Exactement. Plus. Alors, ce match aussi est moins resté, peut-être, hein, je vous pose la question, dans l'imaginaire, parce que.
Il n'y a pas de match.
Déjà, alors, parce qu'il n'y a pas de match, mais aussi, le stade à moitié plein, j'ai vu. Genre, de manière assez incompréhensible, mais bon, il y a 35 000 personnes sur 75 000 possibles.
Donc, pourquoi déjà.
Alors, pourquoi ça, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Vous savez pourquoi?
Franchement, déjà parce que t'es pas en Europe, hein.
Non, mais pour une demi-finale de Coupe du Monde,
normalement,
quand même,
les demi-finales, c'est plein. Non, mais je me souviens d'une ambiance triste.
Un match mal retransmis, en plus.
L'image est super terne. Ouais. Match effectivement retransmis bizarre. On a même l'impression que le maillot des Bleus, il est complètement délavé.
Alors, tu vois, pour montrer comment
les Bleus étaient en blanc, d'ailleurs.
Comment les Français sont passés à côté, notamment en première mi-temps. Il y a une passe à 10 pendant un moment des Allemands et ça chambre dans le stade. C'est quand même assez rare, je veux dire, pour l'équipe de France de se faire chambrer ou parce que les autres font la passe, parce que les Allemands font des passes à 10. Donc c'est la première mi-temps française est catastrophique. Ils ont essayé de revenir en seconde mi-temps, mais en tout cas, il est évident que le match contre le Brésil était dans les jambes et voilà, c'est pas du tout la même chose.
Et dans la tête.
Et dans la tête. Et il y a des fautes techniques que j'ai rarement vu à ce niveau-là côté allemand et côté français. Platini rate beaucoup de choses. Oui. Il se casse la figure aussi sur le terrain. Il y a beaucoup de fautes techniques.
À un moment, il a un bon coup franc, les coups francs qu'il adore, et il le rate, mais jamais je l'ai vu rater un coup franc pareil. Ils sont tous super nerveux. Ils comprennent pas pourquoi ils arrivent pas à prendre leur revanche alors que ça leur a été promis. Je sais pas, c'est tout est
Est-ce que c'est pas la première fois qu'on abordait un France-Allemagne en étant favori? Franchement.
Aussi, il doit y avoir un peu de Non,
mais quand t'es champion d'Europe, t'es favori quand même.
Oui, bien sûr. Non, mais ils étaient favoris. Mais toute l'approche est foireuse de se dire que ça allait tomber tout cuit. Parce qu'en gros, le destin avait été tellement dur 4 ans avant que ça allait tourner, qu'on était plus fort qu'eux. Enfin, tout est pourri dans l'approche de ce match.
Il y a le parcours qui
fait Italie-Brésil quand même.
Bien sûr, tu fais Italie-Brésil, t'es au
Il y a l'Union soviétique qui est monstrueuse à l'époque, la France tient le coup. Tu bats les champions du monde en titre en huitième, il y a le match contre le Brésil. C'est ça l'énorme paradoxe d'ailleurs entre 82 et 86, c'est qu'alors qu'en 82, la France n'a pas fait un parcours extraordinaire, il y a ce match magnifique, et là où elle fait un parcours extraordinaire, comme si elle jouait un tournoi de Roland-Garros avec des spécialistes de terre battue qui sont top 10 mondial, et ben là, elle rate le match qu'il faut pas rater, alors qu'elle est
son favori. C'est justement, l'erreur, c'est que l'Allemagne n'est pas impressionnante du tout dans les matchs d'avant. Et là, consciemment ou inconsciemment, on est favori, on se pense favori, mais c'est même pas qu'on se pense favori, on se pense vainqueur contre cette équipe d'Allemagne qui a du mal à éliminer le Mexique, le match d'avant, et qui est vraiment très moyenne.
Est-ce que le grand regret autour de tout ça, c'est pas Platini? Parce qu'il arrive là quand même avec ses ballons d'or, installé à la Juve, il a 29 ans, ça doit être la Coupe du Monde de Platini. Et à l'arrivée, il est blessé, c'est peut-être lui qu'on attend à ce moment-là, dans ce match compliqué, pour sauver tout le monde.
Non, il a mis Platini, il est au bout physiquement, sa retraite va venir assez vite, hein, finalement.
Ouais, il est au bout, Daniel, mais rappelle-toi qu'il marque contre l'Italie, il marque contre le Brésil, t'as toujours l'impression que à un moment donné, il va quand même faire un truc.
Parce que tu attends qu'il te sauve, mais en fait, il est
là, non.
Voilà. Il marque contre l'Allemagne, mais il est hors jeu.
Oui, exactement. Oui. Il y a le l'égalisation qui est refusée à ce moment-là, exactement. Puisque donc Brême ouvre le score à la 9e minute sur ce coup franc. Alors là, on se plaignait de Jean-Luc Ettori en 82. Là, Joël Batz, bon, il l'avoue d'ailleurs après. Hein,
il joue pas du tout en blanc, les Français. Qu'est-ce que tu m'as dit, Jean-Louis?
J'ai rêvé.
Je me suis dit, qu'est-ce que merde, je perds la tête.
Non, je suis daltonien.
Les Allemands en blanc. Par contre, les Allemands, je crois qu'ils jouent en vert en finale. C'est ça.
Oui, ils jouent en vert en finale. Ça, oui. Ça, les Allemands jouent en vert en finale contre l'Argentine, ça oui.
Ah, j'ai confondu avec la finale.
Effectivement. Avec Batz qui fait, oh là là, c'est affreux.
Oui, alors le coup franc.
C'est la force de Brême aussi. Hein.
Non.
Brême, il est monstrueux. Non,
franchement, la frappe, elle est lourde.
Non, mais attendez, là, c'est une erreur de gardien. Je suis désolé pour Joël Batz.
Moi, je fais confiance à Jean-Louis.
Mais il n'y a pas de débat. Enfin, je ne sais pas, coach. Spécialiste des gardiens
par Bossis. Alors, c'est vrai qu'il avait. Je sais pas,
il est en jeu aussi.
Dans cette position-là.
Pour moi, 100% fautif.
Ah, Batz.
Oui, bien sûr qu'il est fautif sans le but, bien sûr. La frappe, elle a beau être lourde, elle lui arrive dessus.
Il est insupportable, ce polo.
Alors voilà, on apprend un deuxième truc, parce que après, donc les gardiens, c'est ton truc. Donc, il y en a un qui n'a pas fait faute en 82 et l'autre qui n'est pas fautif en 86.
Joël Batz n'est jamais fautif.
Et est-ce qu'il y a vraiment faute avant le coup franc? Puisque tous les Français se plaignent du coup franc à ce moment-là, alors c'est dans le contexte de l'époque. On se plaignait beaucoup de l'arbitrage, mais on voit tout de suite Platini, Tigana se plaindre, dire qu'il n'y a pas faute. Mais bon, Polo, il y avait faute.
Oui, j'ai envie.
Non, mais Batz, il avait peut-être dû dire, tiens, Arconada est devenu célèbre, pourquoi pas moi?
Oui, il y a un côté Arconada, effectivement, dans le coup franc. Mais bon, c'est vrai que la frappe de Brême était forte. Donc ensuite, il y a peu d'occasions pour les Français? À part le but refusé à Platini.
Il y a quand même un Stopira qui se présente seul devant Schumacher à un moment. Et vous vous souvenez de cette image d'un moment, justement, Schumacher prend le ballon et donc Platini va poursuivre, éventuellement s'il relâche le ballon. Oui. Et il fait mine de donner un coup de pied à Schumacher.
Ah oui. Il retire son pied.
Fait mine. Merde, je lui aurais bien mis un coup de pied dans sa tronche à celui-là.
Ouais. Alors il y a un raté aussi assez énorme. Alors j'arrive pas à savoir qui c'est là. Je pense que peut-être vous allez pouvoir Daniel va peut-être pouvoir m'aider. C'est un coup franc joué avec une sorte de louche. Un joueur français qui la reprend et derrière le but est quasiment ouvert et
ouais, c'est
le Français
n'arrive pas à cadrer.
Ah c'est le raté de Bossis ça.
Il est pas hors jeu Bossis sur ce coup-là.
Si il est hors jeu Bossis.
Ah je ne sais pas.
On va voir. Ici,
il est hors jeu. Bon, très bien. Alors Julien, là, hors micro, c'est très compliqué de t'entendre. Hein. On va pas mentir, mais voilà.
Ça m'inquiète que tu ne reconnaisses pas Bossis, quand même, surtout.
Là, bah, excuse-moi.
Ah ouais, non, merde.
Bon. En fait, les Français poussent en seconde mi-temps. C'est,
bah,
c'est
encore heureux, quand même.
Ils tentent, et puis, bah, quand on tente, et ben, on peut se prendre des contres.
Exactement, et c'est
le deuxième. Il est d'une froideur, le deuxième.
Ah ouais, ouais,
oh là là,
ouais,
c'est dur. Ouais. Le deuxième, c'est vraiment, mais allez. Allez, va-t'en, va jouer au
billet.
Oui, alors là, donc. Joël Bat, c'est toujours pas d'erreur, Polo ? Non.
Ah, si, là, ouais.
Parce que là, il sort quand même très loin, hein, Joël Bat. Qu'on aime beaucoup, hein, par ailleurs, hein, qu'on salue,
Joël Bat. Il n'y est pas dans ce match.
Non, ouais, il n'y est pas, coach.
Oh.
Il n'y est pas, parce que là, la sortie, il va à 25 mètres de son but et il se fait devancer par voleur. Bon, voilà, ça peut arriver aussi, hein, de mal apprécier une trajectoire.
Non, mais
c'était rarement.
À côté.
Bien sûr.
Enfin, là, si on passait là, vu comment on était cramoise, je sais pas ce que Maradona aurait fait de nous. Hein. Je te dis franchement. Bon, parce que là, je pense que c'était la sienne. De toute façon, c'était sa Coupe du Monde. Hein. Donc, moi, j'ai aucun regret.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que derrière, il y a la finale contre l'Argentine.
On est sûr qu'il est hors jeu, Bossis, là. Je revois la
question. Bah, moi, je suis pas sûr, c'est pour ça, mais bon.
C'est parce que je l'ai revu ce.
Alors, attends, ça change tout, là.
Attends,
là. Bah, en tout cas, il la joue comme s'il était en jeu. Donc, bon, quoi qu'il arrive.
Mais t'as vu tous les scandales qu'on aurait pu faire, on n'a pas fait ça.
C'est vrai qu'on nous a un peu parlé de ça. Mais bon, s'il avait marqué, on aurait fait un vrai scandale. Là, il a tiré au-dessus, malheureusement. La finale, qu'est-ce qu'on en dit? Vous avez quoi comme souvenir aussi? Puisque
celle de 86
a... Ouais, elle est magnifique.
Finale de 86, non seulement elle est belle, puis c'est le sacre de Maradona. Tu vois, c'est même s'il ne marque pas sur cette finale, il est partout, il est fort.
Il fait une passe D.
Et pourtant, les Allemands arrivent à revenir dans le match.
Bah, ouais, en fait, c'est absolument. Ça. C'est que.
Quand ils reviennent, je me rappelle, bon, les commentaires qu'on faisait devant la télé, une fois de plus, on les pensait cuits et ils vont gagner ce match quand ils reviennent.
Parce qu'il y a 3-2, ils mènent 2-0 dans ce match et les Allemands reviennent à 2-2 avant le but de Buru Chaga.
Je pense que c'est la dernière fois qu'un Nantais a fait gagner une Coupe du Monde sur un but en finale.
Jean-Louis, en Allemagne, par rapport à cette finale, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, les Allemands égalisent à la 81e face à Föller et ils ont tellement pensé la gagner à ce moment-là, la Coupe du Monde, en disant on va attaquer pour flinguer les Argentins, que c'est eux qui se font contrer avec Maradona et Buru Chaga. Et ils se sont dit, on a été idiots, on aurait dû attendre tranquillement les prolongations parce qu'on sentait que les Argentins étaient cuits. Enfin, ça, c'est la version allemande. Et en tout cas, ils se sont précipités et voilà ce qui était arrivé.
Voilà. Bon, bah,
je pense que le fait que ce soit Maradona qui la gagne, ça, en France, j'ai l'impression que ça a atténué un peu la tristesse. Il n'y avait pas la même, c'était pas la nôtre. Moi, c'est ce sentiment que j'avais. Après,
c'est une fin de cycle aussi.
Ouais, je sais pas. Malgré le Brésil, j'ai cette sensation-là à l'époque et que je m'étais dit, ouais, c'est celle de Maradona, quoi. C'est la Coupe du Monde de Maradona.
On sent tout de suite la fin de cycle à l'époque.
Absolument.
Ouais, coach.
Pardon?
Oui, on sent tout de suite la fin de cycle.
Pour les Bleus?
Oui, pour les Bleus, oui.
Si tu veux, on se pose la question quand même.
On se dit que Platini était plus jeune. Platini, on sait qu'il... Non, je ne sais pas si on sait qu'il va arrêter.
Platini, il a 29.
Parce qu'on l'apprend plus tard. Il a encore une saison seulement. Non, attends, Platini, il arrête en 87.
En 87, oui.
Oui, mais après, tu te rends compte qu'après, il n'y a plus de qualification.
Il a 31, puisqu'il arrête à 32 ans. Il arrête à 32 ans, donc il est né en
55. En 31, c'est jeune quand même. Hein.
Oui, mais bon, après, comme il est blessé et qu'il ne veut plus jouer...
Ouais, coach.
Après cette Coupe du Monde, si je dis pas de conneries, il y a plus de qualification jusqu'à 98. Mais à 98, on ne s'est pas qualifié parce qu'on était.
Il y a la qualif pour l'Euro 92. Il y a la qualif pour l'Euro 92.
On fait carton plein.
En Coupe du Monde, il y a plus de qualif avant.
Coupe du Monde, non.
2006, en fait.
Ah non, la période qui suit, elle est terrible. C'est celle de.
Abominable.
D'Henri Michel.
Bah non, t'es qualifié parce que t'as gagné la Coupe du Monde.
Avec le sac à merde de Cantona. C'est celle du match contre Chypre. C'est celle de. Ah non, la période qui suit, elle est terrible. Avec tous les successeurs de Platini qui ne s'imposent pas, les Vercruis, Ferreri.
Mais c'est vrai que.
Bravo.
Platini qui devient sélectionneur sans expérience.
Ouais.
Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte que nous, par exemple, notre génération, pas la tienne, Jean-Louis, celle qui est juste avant, et on a vécu notre enfance, notre adolescence sans Coupe du Monde. C'est-à-dire que 12 ans. Sans voir la France en Coupe du Monde, c'est incroyable en fait.
C'est pour ça qu'en 98, ça a été encore plus retentissant.
Bien sûr,
oui, et que vous avez une pression énorme au début.
Ouais, mais là où par rapport à ce que dit Julien, je suis pas tout à fait d'accord, c'est que on était habitué.
Pas moi. Moi, je suis né au foot avec 82 et 86, donc j'étais habitué après. Hein.
Bah oui, mais moi, enfin, je suis un petit peu avant, peut-être, je sais pas.
Moi, je suis 74. Hein.
71, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'en suis encore avec mon père à me poser les questions quand qui on prend en qualif, quoi. C'est-à-dire ouais. que c'est
quand on déconne avec les matchs contre la difficile, mais il n'empêche que la France
est comme allait quand même.
Il y a, tu vois, 78 est allé, 82, 86,
bah oui.
Il commençait à y avoir un truc de fait de pas y aller en 90, c'est comme si tu retombais dans les années noires qu'on nous avait racontées parce qu'on les avait pas vues. Tu te dis mais merde, pourquoi la Coupe du monde en 90 on n'y va pas, c'est quand même dingue. Et puis bim, t'enchaînes avec le drame de 93 et tu vas pas aux États-Unis. Boum, là ça faisait mal,
d'autant plus que les clubs marchaient en plus.
C'était décevant en plus.
Ouais. Les clubs marchent bien.
Quand t'achetais le jeu vidéo sur Amiga, la Coupe Amiga. Du Monde, Atari, enfin les consoles de l'époque, t'étais obligé de prendre la Yougoslavie pour faire jancer la France parce qu'ils jouent en bleu. C'est terrible. C'est terrible.
Bon, on en reste là. Moi, je retiens quand même qu'entre Julien et Polo, il n'y a que 3 ans d'écart. Et ça, c'est quand même la vraie info. Dans un instant,
le blind test. Et pour lui, on n'est pas de la même génération. Du coup.
Oui, non. Je tiens à ce que Polo reste pour le blind test. Vu la programmation musicale, j'ai envie qu'il reste avec nous. Voilà. Polo, tu restes?
C'est oui.
Très bien. Tout de suite.
Donc, Dark Commissar.
RMC, 18h-20h. Team Dugas. Tout RMC en podcast.
En podcast.
Sur l'appli RMC.
Bah oui, Julien, il y a 3 ans d'écart. Et dans 3 ans, ça fait une génération.
C'est un monde.
Et voilà, c'est pas.
3 ans, c'est presque une Coupe du Monde. Hein. L'écart entre deux.
Bien vu.
Et coach, t'arrêtes de jouer en quelle année, toi?
J'arrête de jouer en 86.
86, d'accord. Et
mais voilà, fallait sélectionner Roland.
Non, mais t'as jamais été proche des Bleus? Il y a une histoire, non, avec, ouais, avec un blessé.
Bah 82, non, quand t'es champion.
Non, avec Curbelo, il n'y a pas d'histoire.
Avant, 75.
Ouais, voilà. Ouais.
Et Roland, il est champion en 78 et 82, non?
Oui.
C'est pas ça? Ouais, c'est ça.
En 82, t'aurais pu y aller.
J'y suis une seule fois et je suis sur le banc, donc je rentre pas. Et Curbelo, qui joue à la place que j'aurais pu jouer, il est blessé à la fin, il tient pendant les 15 dernières minutes. Moi, savais qu'avec avec Trésor et Lopez, c'était difficile donc d'être titulaire en équipe de France pour moi. Et donc, je ne suis pas rentré une minute, donc sur mon CV, il n'y a pas international A.
Comme Jurietti, pour une minute, il est... Oh, c'est terrible.
On va plus retenir Jurietti que Courbis.
Et Curbelo, 3 semaines après, on s'aperçoit qu'il n'aurait pas dû être sélectionné parce qu'il avait déjà été sélectionné en Uruguay.
Oh, c'est terrible ça.
c'est un petit peu ma vie qui commence.
Bon, il y a eu des succès aussi, coach.
Ouais, oui, mais des hauts, des bas.
Des histoires.
Des histoires qui sont des anecdotes. Et en plus de ça. Dans la vestiaire, elle a fait, je lui dis carrément, j'ai dit Carlos, putain, tu peux pas sortir, tiens mal. Mais pourquoi ça compte pas quand tu es sur le banc? Non, je vais pas avoir 50 sélections.
Et voyant qu'avec les Bleus c'était compliqué, t'as pas voulu te tourner vers la Grèce, ton deuxième pays?
Non.
Bah non.
C'est difficile parce que là ils avaient eu du mal à trouver mon grand-père, tu vois pas s'ils se mettent à chercher ma grand-mère.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, Team Dugas continue. C'est le moment que tout le monde attend, bien évidemment. C'est le blind test, mon Jean-Louis. Vas-y, envoie la sauce.
Alors, nous faisons l'équipe Dugarry-Yolo et l'équipe Cazar-Polo-Courbis. Julien, tu es bien entouré.
Ah bah sur 100 mètres, là on gagne déjà nous. Hein.
Avec vous en plus, Vincent est là. Salut Vincent.
Oui, bonsoir à tous, merci de me recevoir.
Avec plaisir, avec plaisir. Vincent. Bonsoir, tu veux faire équipe avec qui?
Avec Dugas, bien sûr. Pourquoi? Parce que.
Oui. Parce que t'es expert tellement... comptable.
Ouais, non, mais on dit tellement de mal de lui alors que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et je pense que je suis pas son frère ni son cousin. J'ai pas été payé, je vous rassure de suite. Mais non, je garde une très bonne image de lui en tant que sportif. Il y a plus de joueurs comme lui, ça existe plus, ces joueurs de foot là. Ouais, ils sont provocateurs, techniciens, tout ça. Ça on le voit plus et ça manque énormément au football.
Bah, bravo pour générale. Tes mots, Vincent. Bravo.
Merci, Vincent.
On rappelle que tu es expert comptable en Gironde et que tu as peut-être besoin d'un futur client. Pas de
soucis. Oui, bien sûr. J'aurai un tarif spécial pour sa déclaration d'impôt. Là, on a encore le temps qu'on a joué dans le jeu.
Très bien. Ali est là également. Salut Ali.
Salut tout le monde.
Toi, bonsoir, Ali. Tu es avec l'équipe éclectique Cazar, Polo, Courbis.
C'est royal.
C'est éclectique. Hein.
Oui. Alors, Polo, je t'explique le principe. On met une chanson, il faut trouver l'artiste. Et après, il y a une question foot qui est liée. Ok.
Ouais, vas-y.
Allez, c'est parti.
Brandy.
Ah oui, bien joué.
Oh, bravo.
C'est Ali.
Bravo. Ali.
Bravo Ali. Joué, Ali. Brandy, Monica. Polo, t'aimes bien?
pas de la musique, ça.
Alors, t'as pas fini de le dire, hein. Je préfère te prévenir. Non,
mais moi, à part Serge Reggiani, c'est compliqué.
C'est l'italien.
Tu peux te refaire ça, sur les questions foot. Titre sorti en 98, The Boy Is Mine. Donnez-moi un buteur autre que Ronaldo lors de la finale de C3 Inter Lazio, remporté par l'Inter 3-0.
Djorkaeff.
Non.
Zanetti.
Simeone. Oui, Zanetti, Julien.
Je suis là, papa.
Bien joué, Julien.
2-0 pour l'équipe Casar. Polo Courbis. Il y avait Zamorano également. Ah ouais. Voilà.
Aïe, 2-0.
Zaza. Duga et Daniel, vous pouvez vous refaire.
Ouais.
Voici une nouvelle chanson.
Attendez.
Non, on enchaîne. Chanson. Il faut l'artiste.
Serge Reggiani.
Matthew Stone.
Duga. Allez, Polo, mets ça à fond dans tes oreilles. Régale-toi. Matthew Stone, arrête Midori. Tu voulais dire, Polo, juste avant la chanson?
Tu m'as dit, tu dis la finale de l'UEFA 97?
Oui, 98.
Ah, 98, pardon, pas 97,
ouais.
Pardon.
Ah ouais, d'accord, j'ai plus un décalage. Okay.
Non, là, t'allais dire, c'est Dortmund.
J'ai l'impression qu'avec un léger décalage, coach nous a redit Matthew Stone, mais une minute après.
Non, mais j'étais en train de réfléchir. Manusson, je connais Matthew Stone.
Ah oui. Alors, donnez-moi un joueur de foot prénommé Matt.
Hummels.
Matt Pokora.
Ah oui, Matt Hummels. Daniel, bien sûr.
Non, c'est Matt.
C'est pas Matt.
Non, c'est pas
Matt. Ah, je l'autorise. J'ai dit que c'était de gagner.
Mais non, j'aurais dit Valbuena, moi.
Excusez-moi, c'est moi l'arbitre.
Ah, pardon, oui, c'est vrai.
Donc j'ai dit que c'était bon. Donc ça fait 2-2. Voilà.
Attends.
Qui, moi? Non, peut-être qu'il s'appelle Matt Hummels. Peut-être.
Ouais, c'est Hummels, c'est ça.
Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Et sachez qu'avec le contexte actuel, il y a deux partout.
Ouais, les yeux d'aujourd'hui.
Voilà, exactement. Deux partout, nouvelle chanson.
Angèle.
Non.
Christian of the Queen.
Oui, The Queen. Mais t'es trop fort, du gars.
3-2, il n'y a que lui qui joue, hein. Parce que nous, on attend dans la question foot. Moi, j'attends la question foot.
Et mon comptable préféré, il peut jouer aussi, hein.
Bah, bien sûr, Vincent.
Non, puis pas la blague.
Ouais, tu l'as dit.
Pas la blague de Jean-Louis.
Non, mais t'inquiète pas, on sait partager les blagues. Polo, un avis sur Christian and the Queen?
Chico, je le découvre. J'ai l'impression d'être dans une bagnole.
C'est le scénario d'Argentine-Allemagne.
Dans une bagnole avec un seul CD, c'est ça que tu dis?
Ouais, c'est ça.
Sorti en 2014, Christine and the Queens, Christine donc. Qui est le meilleur buteur du mondial 2014? Close.
Müller.
Non. Un sud-américain.
Rames, non?
Oui, Rames Rodriguez.
Ah, bravo.
4-2 pour l'équipe du Gary Courbis. Coach, bravo, c'était Rames Rodriguez, hein, la réponse.
Très bien.
Nouvelle chanson, on y va. Ça va aller vite.
Ayam.
Ah bah oui, je lui ai dit que ça irait vite.
De toute façon, là, j'aurais pas répondu.
Ouais, bah ça, tout le monde connaît ça, j'espère.
Pardon. Quand tu prends ton accent marseillais, t'écoutes pas ça?
C'est le dernier rare que j'aurais pu deviner.
Ah ouais, la coach, elle est pour toi. Ouais.
Ah oui.
Petit frère, donc. Question donc sur l'OM, puisque Ayam, t'es grand supporter de l'OM, bien sûr. Toute compétition confondue, qui finit meilleur buteur cette saison de l'OM?
Quelle saison?
Actuelle.
Payet.
Non, Payet, du gars, bien sûr. Le génie.
Benedetto.
Oui, Vincent,
Benedetto,
merci.
Benedetto.
Oui, alors non, déjà, Benedetto.
Julien Benedetto. Julien Benedetto.
Payet, on a déjà
et pourtant, je ne supporte pas Marseille. Hein. Moi, je suis à fond Bordeaux, hein, je vous le dis de suite.
D'accord.
Benedetto.
Non, mais alors déjà, c'était Benedetto.
Non, Julien Benedetto, il est pour Marseille.
Et Benedetto est pour Marseille, effectivement. Mais de toute façon, la réponse, c'était Payet. Ça fait donc. 6-2.
Pas l'année.
6-2. La saison actuelle, je vous ai dit. On va faire une dernière chanson pour le
la saison actuelle, il n'y en a pas.
D'accord.
Je fais un recours à l'UEFA avec Jean-Michel Aulas.
Ben oui.
Ah oui, il y aura une saison blanche.
Je propose une saison blanche pour aujourd'hui.
Cette saison à la fin. Allez, dernière chanson. D'état.
Ah putain, alors ça va prendre ça.
Non, pas Calogero.
Non. C'est un vainqueur de télé-réalité.
Ah, le Marshall. Le Marshall.
Du gars, bien sûr, Grégory Le Marshall.
C'est qu'en fait, on a vraiment eu
les choix musicaux, là,
que de la daube.
Non, un joueur de foot prénommé Greg, en dehors de Greg Coupé.
Pesnay.
Oui, bien joué, Julien.
J'étais cherché un mec.
7-3 grâce à Greg Pesnay.
On est large devant, là, de toute façon.
Vincent, on t'envoie un t-shirt RMC. Vous avez gagné, Daniel, effectivement. Et Vincent, on attend des ristournes, des
déclarations. Bravo, Vincent. Bravo, Daniel.
Bien bravo, sûr. Polo.
Merci. Voilà, mais je vous remercie. Super.
Bravo, Roland.
Salut, les gars.
À bientôt,
je suis
les content, amis. Hein. Merci, tout le monde. Merci, Polo. Merci, Coach Courbis.
Salut.
Julien Cazard et Duga. À demain, 18h.
Salut,
Team Duga revient. Ciao à tous.
RMC 18h-20h Team Duga.